d'avoir répondu à l'invitation de notre commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de la souveraineté et de l'indépendance énergétique de la France. Nous venons de commencer nos travaux puisque notre commission s'est installée la semaine dernière, que nous avons eu une première audition tout à l'heure avec une anthropologue, un historien de l'énergie. Et aujourd'hui, nous cherchons à brosser de façon générale le paysage énergétique de la France avant progressivement d'entrer plus en détail dans le processus décisionnel. Alors, monsieur Jean Covici, vous êtes professeur à Mines Paris Tech. Vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Pardon. Vous étiez alors. Ah, Mines Paris, pardon. Mines Paris, vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat, fondateur du Shift Project. Merci d'avoir répondu à notre demande d'audition dans des délais extrêmement contraints qui sont liés à l'agenda de l'installation de notre commission. Vous êtes par ailleurs relativement connu des Français pour vous exprimer régulièrement sur les sujets d'énergie dans les médias. Et nous allons donc vous donner sans tarder la parole pour nous exposer votre analyse, pour un propos introductif. Et puis ensuite, il y aura des questions de ma part, du rapporteur et puis de la commission. Mais en amont, s'agissant d'une commission d'enquête et en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous devez prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Jean Covici, je vous prie donc de lever la main droite et de dire je le jure.
Je le jure.
Merci. Je vous laisse donc la parole pour un propos introductif.
Très bien. Bah, en fait, mon propos introductif va être relativement bref parce que j'imagine que c'est surtout vous qui avez des questions. Je vais juste faire deux commentaires, un sur mes titres et ce au nom duquel je m'exprime ou pas. Et le deuxième commentaire que je vais faire, c'est sur l'intitulé même de la commission d'enquête. En ce qui concerne mes titres, donc je précise que je ne m'exprime au nom d'aucune des instances pour lesquelles mon nom figure ici. Donc je ne suis pas du tout habilité à m'exprimer au nom du Haut Conseil pour le climat, qui est une présidente qui fait ça très bien. Je ne suis pas plus habilité à m'exprimer au nom des mines, ni au nom de Carbon 4, donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'engage pas Carbon 4, et ni au nom du Shift Project. Voilà, ça n'engagera que moi. La deuxième chose que je souhaite préciser en ce qui concerne le titre même de votre commission. La France n'a jamais été indépendante énergétiquement depuis qu'elle a quitté l'ère des énergies renouvelables. C'est-à-dire que nous étions indépendants énergétiquement à l'époque où nous utilisions exclusivement les pierres et le bois du sol français pour construire des moulins à vent, les pierres du sol français et le bois pour construire des moulins à eau, et le bois français et l'herbe française pour faire avancer des animaux de trait. Depuis que nous sommes rentrés dans l'ère des combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire et des nouvelles énergies renouvelables, etc., en fait, nous ne sommes pas indépendants parce que nous dépendons. Il y a une espèce d'imbrication des énergies. Je ne sais pas si l'historien des énergies qui est venu ici, c'est Jean-Baptiste Fressoz. Non, c'est pas lui. Mais sinon, en fait, il y a une imbrication des énergies qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dégager une énergie de façon individualisée d'un système. Elles sont toutes imbriquées. Et par exemple, on ne fait pas de réacteur nucléaire sans métallurgie, donc sans charbon. On ne fait pas de panneaux photovoltaïques sans électricité au charbon, donc sans charbon. On ne les fait pas venir depuis la Chine sans pétrole parce qu'il faut que ça vienne. Donc en fait, il y a une imbrication des énergies aujourd'hui. Et sauf à ce qu'un pays maîtrise sur son sol la totalité à la fois des sources énergétiques impliquées, donc la totalité des énergies actuellement utilisées dans le monde, et la totalité des mines métalliques qui sont nécessaires pour fournir les dispositifs d'extraction de l'énergie de l'environnement et de transformation en des vecteurs énergétiques qui permettent d'alimenter nos machines, eh bien, on ne peut pas parler d'indépendance énergétique ou de souveraineté énergétique. Donc, en fait, aucun pays ne la possède totalement. L'Arabie saoudite a plus de pétrole que nous, mais elle n'a pas de mine de fer. Donc, si elle était à frontières fermées, sans aucune communication avec l'extérieur, elle ne pourrait pas exploiter son pétrole. Voilà, donc c'était juste une petite remarque préliminaire pour dire que les mots ayant un sens, enfin en tout cas j'imagine qu'ils en ont un dans la commission, dans le titre de la commission d'enquête, je voulais juste faire remarquer que l'indépendance, ça n'existe pas, stricto sensu, et que la bonne question pour moi me semble être, pour l'ensemble du système énergétique, de savoir de qui on dépend, dans quelle proportion, avec quelle aptitude à se retourner si jamais on a un problème avec les gens dont on dépend, Voilà, c'est ça les bonnes questions. Et donc, c'est des questions qui sont nécessairement quantifiées et calendées. Avoir un débat, c'est pas du tout agressif ce que je vais dire, hein, mais avoir un débat philosophique sur l'indépendance, en fait, c'est très intéressant le soir, passé 23 heures, mais sinon, dans l'absolu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pratique. Et je vais finir ce petit exposé liminaire en rappelant que la France, quand on regarde ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie qui alimente les machines qui nous rendent la vie si douce, qu'il s'agisse des ascenseurs, des tractopelles, des trains ou des laminoirs, l'essentiel de l'énergie qui rentre dans une machine en France qui nous rend un service, quelle qu'elle soit, que ce soit de la mobilité, etc., c'est des combustibles fossiles. Et que la France, sauf erreur de ma part, ne possède plus du tout de gisements de gaz sur son sol et possède 1%, enfin extrait de l'environnement 1% du pétrole qu'elle consomme. Je vais également faire un petit rappel. J'avais dans... Alors, pas dans l'hémicycle, ni dans cette salle, mais dans une autre salle de l'Assemblée, il y a très très longtemps, participé à un colloque organisé par Yves Cochet, qui avait fait rigoler tout le monde à l'époque, sur le pic de production du pétrole. Ça devait être il y a une quinzaine d'années, je crois. Je voudrais rappeler que le pic de production du pétrole depuis est passé en ce qui concerne le pétrole conventionnel, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas le shale oil américain et les sables bitumineux canadiens est passé par un maximum en 2008 dans le monde. Il y a un lien direct avec ce qu'on a appelé la crise des subprimes, que depuis ça décline. Et qu'en ce qui concerne l'Europe, l'Europe est en approvisionnement contraint à la baisse sur son pétrole depuis cette date. Ça, c'est quelque chose qui est géologique, d'accord ? Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Ça va s'accélérer dans les décennies qui viennent, et en particulier, il y a un travail très complet qui a été fait par le Chip Project, qui est public, hein, qui est disponible sur notre site, qui porte sur les possibilités de production de pétrole sous seule contrainte géologique des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont par ailleurs les 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada. Et la conclusion de ce travail qui a été mené par deux anciens cadres dirigeants de Total, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agissait de la personne qui était en charge de l'évaluation des gisements et la personne qui était en charge de l'exploration, c'est que la production de nos 16 premiers fournisseurs devrait être divisée par deux d'ici à 2050, ce qui veut dire que leurs exportations vers l'Europe vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Donc de la perte de souveraineté sur le pétrole, il faut s'attendre à en avoir, et pas qu'un peu. En ce qui concerne le gaz, le Chip Project va publier en novembre, dans quelques jours, là, un travail similaire qu'on a fait sur le gaz, confié à des personnes du même tabac, avec des données qui sont issues du même endroit, c'est-à-dire une base de données de l'ensemble des gisements de pétrole et de gaz dans le monde, à laquelle on a eu accès. Et le résultat de ce travail, c'est que le pic de production pour le gaz dans le monde dans son ensemble, c'est 2030. Celui pour la mer du Nord, c'était 2005. Donc si on ajoute à ça le fait que le charbon est en déplétion géologique en Europe depuis 1950, enfin depuis les années 50 en gros, hein, en fait, sur toutes les énergies fossiles, l'Europe étant, entre guillemets, perte de souveraineté depuis 2005 pour le gaz, 2008 pour le pétrole et les années 50 pour le charbon, avant même qu'il y ait des sujets de climat. Voilà, c'est dans ce... Donc il faut bien voir qu'en fait, sur les énergies fossiles qui sont le premier moteur de la civilisation dans laquelle nous vivons, la question de la perte de souveraineté, elle est déjà à l'œuvre depuis longtemps et ça va s'accélérer. Et ça va se traduire directement en contraction de flux de toute nature que l'on a l'habitude de résumer classiquement sous l'angle PIB. Mais voilà, on va avoir un sujet de contraction des flux de toute façon, qu'on en ait envie ou pas.
Merci beaucoup pour ce propos introductif qui pose tout de suite le cadre. Moi, j'aurais du coup quelques questions avant de laisser la parole au rapporteur. D'abord, une première question, finalement, au-delà de la souveraineté et de l'indépendance, aujourd'hui, dans le débat public et dans la situation aussi dans laquelle on se trouve, dans les contraintes pour les choix énergétiques à venir, il y a la question du climat, et elle est même centrale, et donc du cycle carbone, très long sur les énergies fossiles, plus court sur la biomasse, absent sur les énergies renouvelables ou sur le nucléaire. Quel est pour vous, à l'échelle du climat, le pas de temps acceptable du cycle carbone ? Alors pourquoi est-ce que le bois serait acceptable alors que le charbon ne l'est pas ? Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler ça ?
Oui, alors une toute petite remarque incidente sur votre question. En fait, les énergies renouvelables et le nucléaire ne sont pas sans carbone si on regarde en analyse de cycle de vie, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il faut du charbon pour faire la métallurgie amont, il faut de la pétrochimie pour faire, enfin de la chimie organique pour faire la chimie à l'amont, etc. Après, il faut compter. Et le résultat du décompte n'est pas le même en ce qui concerne les différentes énergies renouvelables, le nucléaire, etc. Le pas de temps acceptable, en général, on raisonne dans le domaine climatique au pas de temps de l'année. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une émission et une reprise de l'atmosphère ont lieu la même année, on considère que c'est neutre. C'est ça en général ce qu'on considère. Alors en ce qui concerne les combustibles fossiles stockent du carbone qui a été retiré à l'atmosphère il y a quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire du gaz, du charbon ou du pétrole à partir de résidus de vie ancienne, des fougères qui ont poussé au carbonifère pour le charbon et du plancton qui s'est développé dans la mer n'importe quand, entre il y a 5 millions d'années pour une petite partie, mais surtout n'importe quand, entre 100 et 400 millions d'années pour le pétrole et le gaz. Puis ces résidus de vie ancienne ont été enfouis par la tectonique des plaques sous le sol, gentiment distillés par la géothermie. Et tout ça a pris quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années. Ce qui veut dire que quand on déstocke ce carbone accumulé, ces poches de soleil anciennes, comme dit très joliment Yann Arthus Bertrand, dans l'atmosphère, quand on les déstocke et qu'on les remet dans l'atmosphère, on crée une asymétrie entre le rythme auquel la vie peut reprendre du carbone de l'atmosphère et le rythme auquel nous on déstocke le carbone qui avait été anciennement stocké. Pour la biomasse, en fait la biomasse n'est pas nécessairement neutre en carbone, c'est toute la difficulté du décompte, ça dépend dans quel stock on tape. Pour que la biomasse soit considérée comme neutre en carbone, il faut taper dans un stock qui, si on ne tapait pas dedans, serait à l'équilibre avec chaque année une partie des arbres qui meurent, on va dire, et de jeunes arbres qui repoussent. Et à partir du moment où on prélève dans un stock qui est à l'équilibre, moins que ce qu'on appelle l'accru forestier annuel, c'est-à-dire la quantité de biomasse qui se forme par photosynthèse, à ce moment, on considère qu'on a affaire à une énergie renouvelable. Si on prélève plus, à ce moment, on a affaire à de la déforestation, et ce n'est pas du tout compté dans les énergies renouvelables, c'est compté. Et alors, c'est toute la difficulté, c'est que dans une partie des réglementations qui poussent à l'utilisation de la biomasse, en fait, on n'est pas capable de mettre des seuils. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire on va favoriser l'appel à la biomasse jusqu'à tel niveau, parce qu'après, on bascule dans la déforestation. Et par ailleurs, il y a quelque chose dont on sait très mal tenir compte dans ce genre de cas de figure, qui est les effets dominos ou les effets de transfert. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on considère que le colza qu'on fait pousser en France pour faire des agrocarburants, c'est de la biomasse neutre en carbone. Mais moi, je pourrais vous dire, on pourrait très bien, à la place de ce colza, ne pas faire pousser de colza, diminuer la taille des voitures, et par ailleurs, à la place du colza, faire pousser du soja et de la luzerne, et éviter d'en importer du Brésil, et comme ça, éviter de la déforestation. Bon. Donc vous voyez, dans le deuxième cas de figure, je peux considérer que le colza, par effet d'éviction, empêche de mettre en France des cultures qui, elles, vont engendrer de la déforestation. Du coup, est-ce que je considère que ce colza, il est neutre en carbone ou pas ? Ben, vous voyez, ce genre de... Donc il y a plein de questions de méthode qui sont très compliquées quand il s'agit de faire appel à la biomasse. Et en tout état de cause, si on raisonne à l'échelle planétaire, actuellement, à l'échelle planétaire, la Terre est en déforestation. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on met quelque part une culture énergétique, ben, on peut se dire que comme c'est la culture marginale, c'est la dernière qu'on met en œuvre, c'est elle qui est responsable d'une partie de la déforestation qu'on pourrait éviter sinon si on ne mettait pas en œuvre cette culture. Voilà, donc c'est compliqué, les raisonnements sur la biomasse. Il n'y a rien de très simple là-dedans.
Du coup, est-ce que pour décarboner à l'échelle de la planète notre économie, est-ce que le seul chemin, c'est celui de la décroissance ?
Je pense que c'est quelque chose qu'on ne va pas réussir à éviter. Et en fait, quand on regarde les flux physiques, c'est quelque chose dans lequel nous sommes déjà en Europe depuis 2007-2008, c'est-à-dire le passage du maximum de l'approvisionnement pétrolier. Si on regarde les flux physiques, de quoi je parle ? Je parle par exemple de la quantité de mètres carrés qu'on construit en Europe, qui est passée par un maximum en 2007 que nous n'avons plus jamais atteint depuis. Je parle des tonnes chargées dans les camions, qui sont passées par un maximum en 2007 et qui n'a pas été atteint de nouveau depuis. Je parle éventuellement de la production industrielle. Voilà, quand vous regardez, donc, encore que la production industrielle, elle est mesurée en euros. Donc là, déjà, il y a une convention. On n'est plus dans les unités strictement physiques comme des mètres carrés ou des tonnes. Là, c'est beaucoup plus facile. Donc il faudrait mesurer la production industrielle en tonnes aussi, ou en mètres cubes, ou enfin en quelque chose de physique. Et là, on aurait une réponse qui serait beaucoup plus claire. Mais Il n'empêche qu'un certain nombre d'indicateurs physiques ou de proxys d'indicateurs physiques, en fait, sont déjà en décrue en Europe depuis 2007-2008. Ce qui signifie qu'en fait, la décroissance, on ne s'en rend pas compte, mais on est déjà dedans. Alors, quand je dis on ne s'en rend pas compte, les élites urbaines comme nous ne s'en rendent pas compte. Parce que nous, on fait partie des préservés du système, vous et moi. On vit dans un endroit qui est loin des flux physiques. On vit en ville, les vêtements arrivent dans nos magasins, la nourriture arrive au supermarché, enfin, on ne se rend pas bien compte de ce qu'il y a à l'amont. Et donc, donc on n'est pas, les premiers, j'ai envie de dire, à se rendre compte avec nos sens, et les sens, ça compte quand même chez les animaux que nous sommes, on n'est pas les premiers à se rendre compte avec nos sens de ce qui est en train de se passer, mais en fait, on est déjà dans une espèce de décrue larvée en Europe, et les Italiens s'en rendent très bien compte, les Espagnols et les Portugais s'en rendent parfaitement compte aussi. Et c'est malheureusement quelque chose qui va s'accélérer, parce que les combustibles fossiles, qui sont eux-mêmes en décrue subie, jouent un rôle tellement central dans l'émergence de la civilisation dans laquelle nous vivons, que cette décrue ne sera pas compensée par aucune autre forme d'énergie décarbonée dans les temps, compte tenu des ordres de grandeur qui sont en jeu. Donc les énergies décarbonées vont pouvoir jouer un rôle d'amortisseur, donc c'est bien d'en faire, mais ça ne va pas complètement éviter une remise en cause, parce que les combustibles fossiles sont absolument partout, à commencer par le vêtement que je porte, la cravate que vous portez, etc., le vernis de la table sur laquelle je m'appuie, tous les composants du micro dans lequel je parle, enfin il y a du pétrole, il y a des résidus de pétrole, enfin, ou des dérivés du pétrole plus exactement partout là-dedans. Et donc faire une civilisation actuelle sans combustibles fossiles, personnellement je n'y crois pas. Je pense que c'est juste pas possible. Donc là, avec de moins en moins de combustibles fossiles, oui, on va avoir droit à quelque chose qui s'apparentera, alors appelons-la décroissance, contraction, sobriété, tout ça, c'est des variantes sémantiques d'un concept qui est exactement le même, c'est-à-dire qu'on va devoir faire avec moins de choses physiques. Hein. Alors est-ce que c'est une catastrophe ? Il nous appartient que la réponse soit non. Est-ce qu'on va pouvoir y échapper ? Je ne crois pas, pour des raisons physiques aussi.
Alors, du coup, j'ai deux questions que je vous pose encore, et puis après, je laisserai la parole au rapporteur. Une sur les ressources disponibles sur notre sol. Vous avez largement évoqué la quantité de ressources qu'on importe, qu'il soit de minerais, d'énergie carbonée, etc. Comment est-ce qu'on mobilise les ressources sur notre sol ? Je pense y compris aux ressources minières, le lithium, par exemple, ou des choses comme ça. Et puis, deuxième question qui est peut-être un peu détachée, mais comment on construit aujourd'hui des scénarios énergétiques qui puissent être crédibles ? On sort d'une période où on a vu beaucoup de scénarios énergétiques se contredire. Quelle méthode, selon vous, est-ce qu'il faudrait qu'on adopte pour construire des scénarios énergétiques crédibles ?
Aucune de ces deux questions n'est simple. Sur la première, comment est-ce qu'on fait pour exploiter des ressources ? Déjà, encore faudrait-il qu'on en ait. Vous savez probablement qu'en ce qui concerne le charbon, on n'a plus grand-chose chez nous. En ce qui concerne le minerai de fer, on n'a plus grand-chose chez nous. Je ne sais pas si on n'a jamais eu de minerai de cuivre, mais je ne pense pas qu'il nous en reste beaucoup. Donc certes, on a certaines ressources qu'on peut exploiter. Donc celle-là, éventuellement, on peut le faire. Par contre, il y en a d'autres pour lesquelles ce n'est pas du tout sûr qu'on en ait tout court. Après, il y a une deuxième chose qu'il faut bien voir en ce qui concerne les ressources métalliques, c'est qu'il y a un cercle, alors je ne sais pas si je dois l'appeler vicieux ou en tout cas d'asservissement, entre l'énergie et les métaux. Tout simplement parce que, avec le temps, la teneur en métal des minerais baisse, et ça veut dire qu'il faut de plus en plus d'énergie pour produire une tonne d'un métal donné. Pour vous donner un exemple, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, dans les premières mines de cuivre qui ont été exploitées dans le monde, et notamment la mine de Rio Tinto, qui a donné son nom ensuite au groupe minier éponyme qui se trouve en Espagne, je crois qu'au début de l'exploitation minière, il y avait de l'ordre de 15 à 20% de cuivre en poids dans le minerai. Aujourd'hui, la teneur moyenne en cuivre en poids dans le minerai des mines exploitées dans le monde, c'est 0,4%. Et donc, on est descendu de 20 à 0,4. Et il y a un mouvement général de baisse de la teneur en métaux de toutes les mines qu'on exploite dans le monde. Et c'est évidemment pour cette raison-là qu'une partie des mines françaises ont été abandonnées, parce qu'il y a encore un peu de ressources en France, mais que les mines françaises ont été abandonnées, tout simplement parce que la teneur devenait trop basse et que du coup, c'était pas rentable en compétition avec d'autres gisements dans le monde qui étaient plus intéressants. Donc pour accéder aux métaux, il faut de l'énergie. Et les ressources qu'on peut éventuellement avoir en France, elles sont conditionnées nécessairement à la quantité d'énergie dont on peut disposer pour accéder aux métaux en question, et par ailleurs au gisement de départ, à l'inventaire de départ. on restera nécessairement dépendant, pour partie, de choses qui ne viennent pas de France. Quand on regarde, par exemple, les quantités de cuivre qui sont impliquées dans le développement de tout ce qui est électrique, il est évident qu'en France, on ne peut pas déployer quoi que ce soit de significatif comme mode renouvelable ou même pas renouvelable et comme usage aval électrique sans importer du cuivre. Ce n'est pas possible. Alors, ce sera peut-être facile, ce sera peut-être difficile, j'en sais rien. Sur le cuivre, il y a une information qui a été publiée par l'Agence internationale de l'énergie il n'y a pas très longtemps, disant que les mines de cuivre en fonctionnement dans le monde et celles qui sont en cours de développement, donc en cours de développement, ça veut dire que les infrastructures d'exploitation du minerai sont en cours de construction, passeraient leur pic entre maintenant et dans 2 ans. Et pour rajouter des nouvelles mines, c'est-à-dire pour que des nouveaux projets voient le jour, il faut compter entre 10 et 15 ans. Voilà, donc il y a un petit sujet. Alors ça m'amène du coup à la deuxième question, qui est comment est-ce qu'on fait des scénarios crédibles ? Eh bien, la réponse, c'est très compliqué. Au Shift Project, on avait modestement fait un discours de la méthode sur les scénarios électriques qui nous a valu ensuite d'avoir des dialogues très nourris et très fructueux avec RTE sur la scénarisation électrique. Donc nous, on n'avait pas proposé un scénario, on avait proposé un mode de réalisation des scénarios en disant pour que le scénario soit complet et que le décideur arrive à y retrouver ses petits, il faut absolument prendre position sur tel point, 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 et bien préciser ce qui est une donnée d'entrée et ce qui est une donnée de sortie. Hein, voilà. Alors dans les scénarios énergétiques, il y a aujourd'hui une faiblesse qui est partagée par à peu près tous les scénarios, qui est que l'économie est une donnée d'entrée. Dans mon point de vue, l'économie est une donnée de sortie. C'est parce que nous avons des ressources que nous sommes capables d'avoir un système économique. Donc l'économie vient d'un système productif, donc un système économique. S'il n'y avait pas d'atomes de fer sur Terre, il n'y aurait pas d'immeubles. En tout cas, pas d'immeubles tels que nous les construisons aujourd'hui avec des armatures en fer. D'accord ? Donc la disponibilité des ressources est une condition, est un facteur limitant de la production économique. Et du coup, la croissance du PIB, c'est dans ma vision à moi, tel que ça devrait exister dans l'économie, alors que ce n'est pas du tout ça, hein. Ça devrait être une donnée de sortie d'un modèle dans lequel, en entrée, vous mettez les ressources disponibles et le nombre de gens capables de travailler. Hein, c'est ça que vous devriez mettre en entrée, puis derrière, vous avez une production économique. Or, dans tous les scénarios énergétiques que je connais, en général, l'économie est une donnée d'entrée et l'énergie est quelque chose qui est appelé par une économie dont la création vient de Mars. Bon. Alors ça, c'est une faiblesse qui est partagée par à peu près tous les scénarios, y compris le scénario de RTE. Et une autre faiblesse dans beaucoup de scénarios économiques, c'est qu'on postule que les prix d'aujourd'hui sont prédictifs de l'absence de limite ou de limite sur les quantités de demain. Dit autrement, si ça vaut pas cher aujourd'hui, c'est que demain, on en aura sans limite. Bon. Et ça, c'est une deuxième faiblesse, puisque malheureusement, les prix d'hier ne sont absolument pas prédictifs des quantités de demain. On est en train de le voir en ce moment avec le gaz. Le gaz valait pas cher du tout il y a un an et demi, et ça ne veut pas du tout dire qu'on va avoir du gaz sans problème pour les 2 hivers qui viennent. Donc, c'est celui-ci plus le suivant. Et celui d'après du reste. Donc, ça, c'est des faiblesses un peu partagées par tous les scénarios. C'est le fait qu'on a du mal à désimbriquer l'économie de la partie strictement physique dans les scénarios énergétiques. Après, j'ai envie de dire, les autres faiblesses, elles sont un peu plus secondaires. Mais alors, du coup, ça veut dire que les scénarios énergétiques qu'on fait aujourd'hui, il n'y en a aucun qui soit résistant à la récession. C'est-à-dire que, en gros, si on se trouve dans un monde dans lequel nos moyens physiques sont en décroissance, la question de savoir si le scénario énergétique est toujours réaliste est une question qui n'est pas tranchée. Hein ? D'une manière générale, dans l'ensemble des scénarios, il n'y a pas ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que même les scénarios de sobriété, par exemple les scénarios 2050 de l'ADEME qui viennent d'être publiés, sont des scénarios dans lesquels il y a de la croissance économique. Voilà. Donc, de mon point de vue, à ce niveau-là, il y a une contradiction.
Monsieur le rapporteur.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Jancovici, pour ces premiers mots énergiques. Dans la continuité des questions du Président, peut-être reprendre ce que vous avez dit en introduction sur la manière dont vous avez qualifié l'absence d'indépendance énergétique de tout temps, enfin en tout cas depuis très très longtemps, dans notre pays, et vous demander peut-être de qualifier l'évolution de cette dépendance depuis l'après-guerre.
Alors, au sens de la valeur ajoutée, elle a baissé, la dépendance, puisqu'on a coutume de considérer le nucléaire comme étant une production domestique. Alors, en termes de valeur ajoutée, c'est tout à fait exact. Enfin, c'est très largement exact. Il faut importer moins d'un euro d'uranium par mégawattheure électrique produit avec du nucléaire en France. Donc effectivement, dans un mégawattheure nucléaire qui coûte 50 euros, on peut considérer que, enfin en ordre de grandeur, on peut considérer que 1 euro, c'est une part qui est parfaitement négligeable. Si on raisonne en termes de dépendance, c'est-à-dire si l'étranger n'existait pas, est-ce qu'on pourrait toujours faire fonctionner le système français ? À ce moment, on n'est pas plus indépendant sur le nucléaire que sur le reste. Par contre, on n'est pas dépendant de la même manière. Et en particulier, si je compare aux hydrocarbures, on a un confort, j'ai envie de dire, temporel, qui n'est pas exactement le même. En ce qui concerne les hydrocarbures, comme vous le savez probablement, on a 3 mois de stock en France. C'est-à-dire que si demain matin, tous nos fournisseurs nous coupent les vivres sur le pétrole, le pays fonctionne 3 mois et puis s'arrête. Alors en fait, il s'arrêtera même bien avant, parce qu'il y a des stocks stratégiques qu'on n'utilisera pas, parce qu'on les gardera pour l'armée, les ambulances, je ne sais pas quoi. Donc très vite, le pays s'arrête. En ce qui concerne l'uranium, on peut stocker des années de fonctionnement sur le sol, et des années, ça laisse un peu plus de temps pour se retourner si on a un problème avec un fournisseur que 3 mois. Voilà. En gros, on a, en passant des hydrocarbures au nucléaire, ce qui est la décision qu'on a prise dans la production électrique dans les années 70, bien évidemment, nous avons gagné en confort stricto sensu. On ne peut pas dire qu'on ait gagné en indépendance. Par contre, on a gagné en confort et on a gagné en part de valeur ajoutée qui est réalisée sur le sol français versus ce qui est fait à l'étranger. On a aussi gagné, même si ce n'était pas le but à l'époque, mais du coup, c'est quand même un atout précieux sur les émissions de CO2.
Merci beaucoup. Est-ce que, si je reprends ce que vous venez de dire, en prospectif, ça veut dire que un réinvestissement de la filière nucléaire ou bien à technologie constante ou marginalement évolutive, si on prend les EPR ou à technologie différente avec les neutrons rapides ou très différente avec la fusion, on ne gagnerait qu'en confort à nouveau, mais pas en indépendance ?
C'est bon. Alors, stricto sensu, on ne gagnerait toujours pas en indépendance, parce que par exemple, pour faire une centrale nucléaire, il faut du chrome, on n'a pas de chrome en France, il faut du cuivre, on n'a pas de cuivre en France, donc c'est toujours pareil. Si on veut être strict sur les termes, non, on ne gagne pas en indépendance. On a toujours besoin d'un fournisseur étranger. Mais on gagne en confort et on gagne en quantité. Alors, en ce qui concerne le cuivre, si mes derniers chiffres sont exacts, parce qu'il y avait un document de l'Agence internationale de l'énergie qui donnait ça, il me semble que le rapport entre le solaire et le nucléaire, c'est de l'ordre de grandeur, c'est plus de 10, hein, sur la quantité de cuivre par kilowattheure produit. Donc, dans un cas comme dans l'autre, si on veut faire du décarboné, on est moins dépendant si on fait du nucléaire que si on fait un système solaire. Et d'une manière générale, les énergies renouvelables qui exploitent des sources diffuses, donc le vent et le soleil, ont besoin de plus de collecteurs pour avoir la même quantité d'énergie à l'arrivée, sans parler du fait qu'en plus, il faut concentrer, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une civilisation de la puissance, donc on a besoin de sources concentrées. Si on veut maintenir un système qui n'est pas trop éloigné du système actuel, après, on peut débattre d'autres choses. Il faut concentrer et il faut éventuellement stocker, parce que les hydrocarbures assurent également la fonction de stock, j'ai envie de dire par construction. Tout ça demande également des moyens supplémentaires, et donc à chaque fois des métaux en plus. Donc stricto sensu, développer la filière nucléaire, je le répète, c'est pas être indépendant puisqu'on a toujours besoin de fournisseurs de métaux étrangers, c'est être moins dépendant au niveau des métaux que d'autres options. Dans les trois choses que vous avez citées, alors il y en a une qu'on peut exclure tout de suite, c'est la fusion. La fusion, mes enfants seront morts, que ça ne sera toujours pas quelque chose qui va changer la donne de façon significative dans l'approvisionnement électrique décarboné. Je voudrais quand même rappeler que ITER aujourd'hui, c'est un dispositif qui a seulement pour objet de produire un peu plus d'énergie avec la fusion du plasma que l'énergie qui a été nécessaire pour mettre le plasma en chauffe à quelques millions de degrés. Par ailleurs, ITER ne comporte aucun dispositif électrogène. Et je ne sais pas si aujourd'hui on sait faire un dispositif électrogène avec du rayonnement gamma et des neutrons, puisque c'est essentiellement ça qu'on va récupérer d'un réacteur à fusion, alors que dans un réacteur à fission, on récupère de l'eau chaude, c'est quand même un peu plus simple. Donc ITER, on oublie, ça ne va pas changer grand-chose avant que les gens dans cette salle ne passent de vie à trépas. En ce qui concerne la quatrième génération, pour moi, c'est le gros déterminant du fait qu'on ait un nucléaire, entre guillemets, durable à l'avenir ou pas. Le nucléaire qu'on exploite aujourd'hui exploite, comme vous le savez probablement, un isotope très minoritaire de l'uranium, l'uranium-235, qui est présent à environ 0,7% dans l'uranium naturel. Les quantités récupérables d'uranium sur Terre, en ordre de grandeur, font que si on voulait remplacer, toujours sur Terre, si on raisonne CO2, une fraction significative des centrales à charbon mondiales par de l'uranium, enfin par du nucléaire, il n'y a pas assez d'uranium-235 pour que ce truc-là flotte pendant des siècles. Il n'y en a pas assez. Donc il faut absolument, si on veut que le nucléaire soit durable, passer à la quatrième génération, qui, elle, est capable d'exploiter soit l'uranium-238, soit du thorium. Et il faut le faire dans pas trop longtemps, parce que pour démarrer ces réacteurs de quatrième génération, on a quand même besoin du seul matériau fissile qu'on trouve sur Terre, qui est l'uranium-235. Donc le jour où il n'y a plus d'uranium-235 du tout, c'est évidemment caricatural, mais pour bien faire comprendre, on ne peut plus démarrer de réacteurs de quatrième génération. C'est plus possible. Est-ce que si la France passait à la quatrième génération, on augmenterait notre indépendance ? Oui, on serait capable d'exploiter les stocks d'uranium-238 qu'on a accumulés, très bien, mais en fait, ça ne change pas grand-chose dans le panorama d'ensemble, parce que, je le redis, on continue à avoir besoin d'importer d'autres métaux pour construire les réacteurs, pour etc. Et le poids de l'uranium dans l'affaire n'est pas quelque chose d'absolument fondamental. C'est toujours bon à prendre. Mais l'argument premier pour passer à la quatrième génération, il n'est pas qu'on a accumulé des stocks d'uranium-238 en France. Il est que, à l'échelle mondiale, j'ai envie de dire, c'est le seul nucléaire qui puisse être réellement durable.
Pour continuer dans le panorama que vous faites, vous avez parlé des hydrocarbures, enfin des fossiles en général, là du nucléaire, et peut-être vous pouvez nous dresser le tableau pour un certain nombre d'énergies renouvelables, à la fois en capacité à sécuriser les approvisionnements à moyen terme, et puis bien sûr en capacité de métaux et de fiabilité.
En ce qui concerne les énergies renouvelables, la France, elle est avec un trio de têtes qui ressemble beaucoup à ce qu'on a dans le monde. Puisque les trois premières énergies renouvelables dans le monde sont, alors, sous réserve de ce que j'ai dit en ouverture sur la déforestation, d'abord la biomasse, c'est la première énergie renouvelable qu'on utilise dans le monde. Ensuite arrive l'hydroélectricité, c'est-à-dire l'exploitation des fleuves. Et en troisième arrive l'éolien. Et en fait, en France, on a le même trio de tête, c'est-à-dire que la première énergie renouvelable en France, c'est le bois. La deuxième, c'est l'hydroélectricité, et la troisième maintenant, c'est l'éolien. Les perspectives pour ces différentes énergies renouvelables sont assez différentes. Alors, en ce qui concerne le bois, c'est conditionné par l'évolution de la forêt. Or, notre forêt, elle va être mise à mal par le réchauffement climatique, à condition climatique stabilisée, c'est-à-dire si demain matin le réchauffement s'arrêtait, on a quand même 10% de la forêt française qui va mourir. Dans un monde à 2 degrés, on se rapproche plutôt de 40 ou 50% des espèces actuelles. Vous avez le hêtre qui disparaît quasiment, vous avez une bonne partie des chênes qui vont disparaître, vous avez l'épicéa qui disparaît en plaine, une bonne partie des sapins qui disparaissent, etc. Donc, quand je dis ça, je me réfère à des simulations qui ont été faites avec toutes les réserves qu'on peut avoir, sachant que ces dernières années, ce qui s'est vraiment passé dans France est allé plutôt plus vite du mauvais côté de la barrière que les simulations dont j'avais connaissance il y a 10 ans. Donc, c'est, voilà. Malheureusement, j'ai envie de dire, l'évolution, elle est plutôt plus désagréable que l'idée qu'on pouvait s'en faire. Et si on commence à avoir un dépérissement forestier généralisé, avoir beaucoup de biomasse, enfin oui, on aura les arbres morts, mais après, on n'aura plus rien, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, il y a cette hypothèque-là sur l'approvisionnement en biomasse. En ce qui concerne l'hydroélectricité, on va avoir un stress hydrique, là aussi, qui va nous desservir, puisque globalement, les simulations en ce qui concerne le réchauffement climatique montrent un assèchement sur le pourtour du bassin méditerranéen, dont les Alpes, au sens large, font partie, en particulier la partie sud. Donc il va y avoir un sujet, et en fait ça peut remonter même assez au nord, puisque cette année, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais la Norvège a des réservoirs de barrages qui sont très mal remplis. Donc la sécheresse est allée suffisamment au nord en Europe pour que la Norvège évoque même la possibilité d'exporter moins d'électricité que d'habitude, ce qui a fait hurler le Danemark, qui a besoin des échanges avec la Norvège pour équilibrer l'intermittence de son parc éolien extrêmement développé. Donc l'hydroélectricité est un... Voilà, il y a un sujet et on ne peut pas tellement la développer beaucoup plus en France. Alors on peut faire de la micro-hydraulique, mais le dictionnaire est bien fait. Micro-hydraulique, ça fait des micro-productions. Donc même si on fait beaucoup de micro-productions, à l'arrivée, ça ne fait pas quelque chose qui va changer significativement la donne à l'échelle française. C'est toujours bon à prendre là où on peut le faire sans engendrer de nuisances écologiques, éventuellement remettre mettre des alternateurs sur certaines roues de moulin, etc. Mais ça ne va pas faire des volumes considérables. Après arrivent les nouvelles énergies renouvelables. Alors arrivent deux contributions en particulier, les pompes à chaleur et l'éolien. En ce qui concerne l'éolien, c'est très simple. Hein, on compte l'énergie électrique qui sort d'une éolienne quand les pales sont mises en mouvement par la force du vent. La limite, l'avantage de l'éolien, c'est qu'effectivement, une fois construite, l'éolienne n'engendre pas d'émissions. Les limites sont que, comme ça exploite une énergie relativement diffuse, parce que l'air, c'est pas très dense, donc dans E égale 1,5 de MV2, donc dans un mètre cube d'air en mouvement, il n'y a pas beaucoup d'énergie cinétique. Et donc, il faut construire beaucoup d'éoliennes pour récupérer des quantités significatives d'électricité. Ça veut dire avoir beaucoup de projets, et donc, à ce moment, il y a beaucoup d'endroits où il y a des gens qui sont éventuellement capables de discuter. Alors on peut soit leur dire vous discutez pas, soit discuter. Les deux options ont des avantages et des inconvénients. Et ensuite, le vent n'est pas toujours régulier en permanence. Et une éolienne, il faut savoir que sa puissance dépend du cube du vent. Donc si vous divisez la vitesse du vent par 2, la puissance électrique fournie est divisée par 8. Ce qui veut dire que, et quand vous regardez à l'échelle de l'Europe, même avec l'interconnexion de toutes les éoliennes européennes, l'ensemble du parc éolien européen peut descendre à 2, rarement, mais il y a quelques moments dans l'année où il descend à moins de 5% de la puissance installée pour l'ensemble de l'Europe. Donc on ne peut pas avoir un système qui est purement éolien, et même en rajoutant du solaire, qui est un peu contracyclique par rapport à l'éolien, parce que vous avez plutôt de l'éolien l'hiver, quand il y a peu de soleil, et plutôt du soleil l'été, quand il y a peu de vent, donc vous avez deux systèmes contracycliques, enfin un peu contracycliques, l'ensemble des deux ne permet quand toujours pas d'avoir un approvisionnement garanti. Donc, ces énergies-là, elles ont comme limite une limite en emplacement, il faut avoir beaucoup d'emplacements, et une limite en matériaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisqu'elles sont beaucoup plus intensives en métal que les modes centralisés que nous avons l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant. Donc, c'est des limites qui sont plutôt physiques, à contrario des limites du nucléaire, qui sont plutôt des limites de compétences et de consensus, j'ai envie de dire. La limite côté nucléaire, elle est plus du côté de la volonté humaine. La limite côté nouvelles énergies renouvelables, elle est plus du côté des barrières physiques. Hein, voilà. Je ne suis pas en train de dire que la volonté humaine, c'est une limite qui est plus simple à franchir. Hein. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle peut être beaucoup plus compliquée. Mais... Les pompes à chaleur, ça exploite le transfert d'énergie entre l'environnement et l'intérieur d'un logement ou l'intérieur d'une usine, parce qu'on peut faire des pompes à chaleur haute température pour les procédés industriels, pour faire de la vapeur industrielle, avec un cycle thermodynamique qui se trouve avoir en général l'avantage d'avoir un rendement supérieur à 1. C'est-à-dire que pour 1 kWh d'électricité que vous injectez dans la machine, vous transférez plusieurs kWh de chaleur entre l'extérieur et l'intérieur d'un logement. C'est une contribution aujourd'hui qui commence à devenir significative, mais c'est une énergie renouvelable, c'est un peu un paradoxe, qui a besoin d'électricité pour être mise en œuvre. Et donc moi j'avais fait un petit calcul d'ordre de grandeur, si on voulait remplacer l'ensemble du chauffage au gaz dans ce pays par des pompes à chaleur, après avoir préalablement isolé l'ensemble des bâtiments, on en a quand même pour quelques dizaines de térawattheures d'électricité à trouver. Donc on peut les trouver, on peut décider de les faire, mais voilà, c'est pas quelque chose quand même qu'on va trouver sous le pied d'un cheval. Après arrivent des contributions qui sont plus mineures, dans lesquelles on va trouver les agrocarburants, on va trouver le solaire, on va trouver la géothermie, voilà, on va trouver des choses comme ça qui sont plus marginales. Il n'y a aucune de ces énergies renouvelables pour lesquelles on puisse se dire, quand on regarde bien, il n'y a pas de problème à leur expansion indéfinie. Voilà, c'est ça le problème.
Une dernière question, enfin un paquet de questions pour ma part qui a plus trait à votre expérience et votre participation au débat public depuis de nombreuses années. Le discours sur les énergies nucléaires, sur la production d'énergie nucléaire en France a beaucoup varié. Je ne sais pas si on prend une borne arbitraire des années 80 à aujourd'hui, de la préparation à la fermeture de Superphénix, des décisions prises dans les années 2000 jusqu'à la fermeture de la centrale de Fessenheim jusqu'au discours du président de la République de Belfort. En tant que participant au débat public, à la fois avec les décideurs politiques, mais aussi dans les universités, dans le débat public, quel regard vous portez sur toutes ces évolutions et à quelle cause vous leur attribuez ?
Je me méfie beaucoup, en ce qui me concerne, du fait que je vois midi à ma porte, comme beaucoup de gens. Quand on regarde les sondages sur les Français et l'énergie, en fait, on se rend compte que... ce qui va beaucoup compter, c'est le prix. Et après, il y a beaucoup d'autres trucs qui comptent quand même beaucoup moins. Ce que je constate quand même, c'est que les systèmes énergétiques, ils vivent sur un pas de temps qui n'est pas celui de la démocratie. Donc en gros, le gros problème des débats sur l'énergie, c'est qu'ils portent toujours... sur des pas de temps qui sont un ordre de grandeur en dessous de ce qu'il faudrait regarder. Hein. On s'intéresse à ce qu'on va faire dans les années qui viennent, alors qu'il faudrait qu'on ait quelque chose d'un peu construit sur les décennies qui viennent et qu'on n'y revienne pas tous les quatre matins. Donc en fait, il faut arriver à créer un consensus dans la population, parce qu'il n'y a que le consensus dans la population qui transcende les alternances électorales, sur la façon dont il faut s'organiser, et ensuite qu'on n'en dévie pas trop, en espérant que le premier jet... que le coup d'essai soit un coup de maître, c'est-à-dire que le premier jet et la première copie qu'on rend soit la bonne. Parce que quand on est dans une course contre la montre, ce qui est notre cas, hein, à la fois avec le changement climatique et avec l'épuisement de ce qui a fait la civilisation moderne, on ne va pas avoir droit à essai-erreur 50 fois. Hein. C'est absolument évident. Et là, en fait, on va déjà payer le prix d'une partie des essais-erreurs qu'on a fait dans le passé. Je ne suis pas en mesure de savoir moi-même comment expliquer très exactement ce qui s'est passé sur les 20 dernières années. Donc je continue à fouiller, à essayer de me construire une histoire. Je ne suis pas au bout de ma quête. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un certain... Il y a des épisodes isolés qu'on est capable de reproduire. Par exemple, il ne fait absolument aucun doute dans mon esprit que la partie 50% de nucléaire et fermeture de Fessenheim, c'est Hollande qui voulait un accord avec les Verts. Donc ça, je suis capable de le caractériser, de le dater, etc. C'est un épisode... Voilà. Mais c'était exactement pareil en ce qui concerne Jospin et Superphénix. Mais par contre, il y a d'autres trucs pour lesquels c'est très difficile pour moi d'essayer d'expliquer dans son ensemble. Un truc, par exemple, que je suis pas capable d'expliquer, c'est pourquoi est-ce que le pétrole est si absent du débat public en France. Le pic de production du pétrole, tout le monde s'en fout. Je redis, quand Cochet avait organisé son colloque ici, ça avait fait rigoler tout le monde. Et encore aujourd'hui, quand vous expliquez qu'on est déjà rentré en décrue subie d'approvisionnement pétrolier, les gens vous regardent avec des yeux comme des soucoupes. Ils n'en entendent jamais parler, etc. On a un peu commencé à parler du gaz depuis que M. Poutine nous fait des misères, mais enfin, sinon, avant, on n'en parlait pas trop. Donc, voilà. Donc, il y a une focalisation sur l'électricité dans le débat public qui ne vous aura pas échappé. Et en particulier sur un antagonisme nucléaire renouvelable, renouvelable électrique, je précise, puisqu'encore une fois, la première renouvelable en France, c'est le bois, qui n'est pas électrique, qui fait les choux gras de la presse et qui nous occupe beaucoup. Mais il y a des questions pour lesquelles j'ai toujours pas de réponse. Je ne sais toujours pas pourquoi est-ce que le débat public s'est structuré avec... en se focalisant sur certains points, pourquoi est-ce qu'il y a des décisions à certains moments qui ont été prises... voilà, j'ai pas encore les idées totalement claires sur le sujet, même moi.
Pardon, et toute dernière, alors parce que vous y incitez, sur le niveau d'information de la population, du grand public, des décideurs publics au sens large, en termes de connaissances du domaine énergétique et l'implication sur les décisions prises.
Il est faible. C'est pas un sujet central dans l'information médiatique. Alors c'est pas un sujet central dans l'information médiatique, probablement parce que c'est vu comme un bien de consommation avant d'être vu comme le déterminant de ce qui fait notre monde. Hein, l'énergie, je le redis, on en parle. Les carburants, on en parle parce qu'on les achète. On ne comprend pas que sans camion, il n'y aurait pas de ville. Sans camion, il n'y a pas de ville. Hein. Pas de... Parce que vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas de biens de consommation, vous n'avez rien. Quoi. Pas de ville sans camion. Donc, on ne parle de l'énergie que sous l'angle du prix, ce qui est quand même extrêmement réducteur, et ce qui est très court-termiste. D'une façon générale, dans les médias français, il y a quand même un problème de qualification technique, j'ai envie de dire, alors qui évolue doucement. Hein. Mais les sujets très techniques sont toujours des sujets avec lesquels les médias français ne sont pas très à l'aise. Peut-être que ça tient à la formation des journalistes qui n'est pas technique, donc du coup, il faut qu'ils compensent par de l'expérience sur le tas pour y arriver, et ça prend du temps. Peut-être que c'est dû à l'organisation des rédactions, où l'aristocratie, c'est le service politique, qui justement ne discute pas des vices et des boulons parce que l'intendance suivra. Enfin, je sais pas. C'est clair que la qualité de l'information, elle est pas terrible, et le niveau d'information de la population n'est pas très élevé. La bonne question, c'est est-ce que c'est très différent dans les autres pays occidentaux ? J'ai pas la réponse à cette question. Je serais étonné que ce soit monstrueusement différent dans l'essentiel des pays occidentaux, on va dire. Je pense qu'il y a quelques pays qui sont quand même un peu plus matures. Je pense que la Grande-Bretagne est un pays dans lequel le débat est un peu plus éclairé. Mais bon, c'est un peu... Mais d'une manière générale, le degré de compréhension du grand public et son degré d'implication dans ces débats est très faible. Quand on dit qu'on fait des débats publics, il faut bien voir que ça concerne une toute petite fraction de la population. Si je prends par exemple les débats là, qui sont organisés en ce moment par la CNDP, c'est des débats, je serais curieux de voir à la fin du débat quelle est la fraction de la population qui aura entendu parler du débat. Mais voilà, mon expérience, c'est que c'est toujours des débats qui concernent une toute petite fraction de la population. Alors, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est une donnée du problème. En ce qui concerne les décideurs et les élus, alors là, j'ai envie de dire que la situation s'est différenciée sur les 10 dernières années. Je pense que le monde civil a progressé plus vite que le monde politique. Et quand je vois... les débats qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde politique sur ce sujet, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup bougé par rapport à il y a 10 ans. Quand je vois le... Il y a des décisions qui peuvent être prises, mais je veux dire, globalement, je trouve qu'on n'a pas où il y a 20 ans. Dans la société civile, la conscience que les temps qui s'annoncent risquent pas être très simples... Et la compréhension d'un certain nombre de choses en ce qui concerne, et je parle là plutôt des décideurs, en ce qui concerne à la fois le climat et l'énergie, a quand même un peu progressé.
Voilà. Alors, on va passer aux questions des groupes. Alors, pour Renaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non. Pour le RN, est-ce que quelqu'un a une question ? Monsieur Tanguy, allez-y.
Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Jancovici. Écoutez, j'ai écouté, je suis désolé, je n'ai pas pu être là. Il y avait le 49.3, donc je n'ai pas entendu votre introduction. J'ai entendu vos réponses aux questions. Je vais me fonder sur les travaux que j'ai lus de vous et les nombreuses interviews que j'ai entendues de vous. Je voudrais notamment rebondir sur ce que vous avez dit sur le pétrole. Bon, alors, à notre modèle, modeste échelle, effectivement, nous aussi, on essaie de mettre le sujet du pétrole depuis plus de 10 ans dans le débat public et nous avons échoué. Même là, en ce moment, vous avez parlé du gaz avec Poutine, le pétrole, le fait, même dans les ressources financières de la Russie, sont plus importantes que les ressources financières liées au gaz. Et pourtant, même ça a échoué. Bon, ça reste, on le voit bien aujourd'hui, dans les préoccupations des Français, on l'a encore vu avec la pénurie qu'on a subie, reste un sujet central. Et pourtant... aujourd'hui, on n'a pas de solution technique. Donc, j'espère, enfin, l'une des raisons de cette commission, j'espère, c'est pas seulement de critiquer pour critiquer, même sinon on s'en sortirait bien, c'est de savoir ce qu'on fait. Voilà. Bon. Et donc, j'ai bien entendu vos réflexions sur les moyens de production électriques, électrogènes, alternatifs. Mais comment on fait ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour le pétrole et pour remplacer ce don de la nature, enfin, ce don empoisonné, mais enfin. En tout cas, techniquement, ce don qui a permis la société de consommation et aussi l'amélioration des conditions du plus grand nombre. Parce que Bon, pour vous suivre régulièrement, et l'impasse, la pourrie qu'on a dans le débat public, c'est le lien quand même entre la hausse du niveau de vie et la démocratie est quand même évident. Bon. Donc tout le monde remet en cause visiblement l'abaissement du niveau de vie comme une fatalité. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je pense que ce sera lié à une baisse du niveau de démocratie, des libertés publiques qui va avec. Donc l'importance de trouver une solution à ce qui est permis, non pas l'enrichissement des personnes, mais juste que leur vie soit plus douce, plus agréable et plus vivable, nous préoccupe vivement. Donc vous avez fait beaucoup de critiques, et je les entends, hein, c'est pas une critique de la critique, mais qu'est-ce qu'on peut faire, vous, à notre place, qu'est-ce que vous prendrez comme option technique, sachant le panel de technologie que maîtrise la France?
La réponse, la réponse longue, elle figure dans les travaux qui ont été faits par le Shift Project sur la façon de faire évoluer le parc de bâtiments et la mobilité. Quand on regarde où sont les usages du pétrole en France aujourd'hui, en fait, trois usages importants, on va dire. Il y a un usage dans la mobilité. L'essentiel du pétrole va dans la mobilité des marchandises et dans la mobilité des personnes. Et paradoxalement, on est plus dépendant encore de la mobilité des marchandises qui n'ont pas de jambes que de la mobilité des personnes. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait remarquer que si demain matin, il y avait une voiture sur trois seulement qui était capable de rouler en France, tout le monde gueulerait. Mais en attendant, on arriverait à s'organiser quand même. Alors que si demain matin, il y a seulement un camion sur trois qui roule en France, on a un tout petit sujet d'approvisionnement alimentaire. Donc là, il y a 30% des camions en France qui transportent un truc qui se mange. Donc le pétrole, il sert d'abord à ça, il sert ensuite un peu au chauffage, et enfin, il sert un peu dans l'industrie, et dans l'industrie, son usage le plus précieux est comme matière première pour faire de la chimie organique, laquelle chimie organique va se retrouver absolument partout, dans les vêtements, dans les bâtiments, dans les détergents, j'ai envie de dire, les biens intermédiaires qui servent à toute l'industrie à l'aval. Les options pour remplacer le pétrole sont pas les mêmes en fonction de ce qu'on regarde. Alors, en ce qui concerne la mobilité, au Shift Project, on a fait un certain nombre de morceaux du plan de transformation de l'économie française qui portent là-dessus. On a à la fois analysé la mobilité longue distance, dont la mobilité aérienne a fait l'objet d'un rapport à part, la mobilité du quotidien, la mobilité des marchandises. Donc, on a regardé tout ça. Si je fais court dans les conclusions, il va falloir faire avec moins de voitures parce que l'énergie, c'est 1,5 de MV2. Donc, quand on déplace 1,5 tonne de métal, ma foi, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie. Et si on n'a plus le pétrole, les énergies alternatives, que ce soit l'électrification, les agrocarburants, etc., ne permettront pas de conserver en France 40 millions de véhicules particuliers comme on les a aujourd'hui. C'est pas nécessairement un drame, simplement il faut pouvoir s'organiser en conséquence. Non, c'est pas nécessairement un drame, mais de toute façon on va devoir faire avec. Donc je confère ce que j'ai dit tout à l'heure à la question sur la croissance. Donc après on peut taper du pied et se rouler par terre, mais ça changera strictement rien. Donc ça c'est votre métier, si vous le prenez comme ça. Hein. Donc je le redis, moi je suis là pour vous faire part de faits physiques. Les faits physiques, c'est qu'on va en avoir moins. Et qu'avec moins, on aura moins de voitures. Alors après, on peut s'organiser encore une fois en faisant en sorte que ce ne soit pas un drame, ou on peut ne rien faire. Et si on ne fait rien, à ce moment, ça sera un drame. C'est ça qui va se passer en fait. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on sera privé, y a des gens qui vont être sortis du jeu sans avoir vu le coup venir à l'avance. C'est exactement ça qui va se passer. Si on veut s'organiser pour pas que ce soit un drame, ça veut dire qu'il faut qu'on développe dans ce pays des transports en commun, pas nécessairement des transports lourds, du reste, il faut faire aussi des bus et des autocars. Il faut faire du covoiturage, il faut faire des modes actifs, alors qui sont particulièrement pertinents en ville et en périphérie de ville dense. C'est évidemment beaucoup moins facile de se balader à vélo sur 30 bornes quand on est loin de tout. Oui, mais il y a plein d'endroits où on n'est pas loin de tout. Donc il y a plein d'endroits où on peut quand même s'organiser pour faire autrement. Il va falloir également s'occuper du transport des marchandises. Et là, c'est exactement pareil. Il y a une partie du fret qu'on peut électrifier sur autoroute ou sur grands axes en hybridant les camions et en les électrifiant. Il y a une partie du fret qu'on peut basculer sur le ferroviaire. Il y a une partie du fret qu'il faut arrêter de déplacer. Je pense pas aujourd'hui que... Si aujourd'hui, on arrêtait les livraisons sous 24 heures par un GAFA que je ne nommerai pas, je sais pas si la population se suiciderait. Je suis pas complètement persuadé. Donc, il y a un certain nombre de choses. On peut tout simplement y renoncer sans que ce soit dramatique. Ce qui va être ennuyeux, c'est pour les gens qui y travaillent. Donc en fait, si on doit renoncer à une activité, la vraie question, c'est pas tant le drame pour le consommateur, parce qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles je pense qu'on y arrivera encore à peu près, c'est le drame pour les gens qui y travaillent. Donc en fait, il faut planifier ce genre de truc et il faut le faire avec un préavis suffisant pour que les gens puissent trouver quelque chose qui les intéresse ailleurs. En ce qui concerne le transport aérien est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. Là, quand on regarde les alternatives technologiques, il n'y en a pas une qui est à l'échelle de façon raisonnable. Si on devait, je vais juste vous donner un exemple sur les agrocarburants. Le pétrole aujourd'hui consomme 8% du pétrole mondial. Consomme 8% du pétrole mondial. Si je transformais en agrocarburant les quatre premières cultures végétales dans le monde, qui sont le maïs, le riz, le blé et le soja, intégralement en agrocarburant, j'aurais en gros un quart du pétrole mondial. C'est-à-dire que j'aurais trois fois ce que consomme l'aérien. Donc on oublie les agrocarburants pour promener des riches en avion. On oublie, quoi. Donc une partie du transport aérien va se contracter. Voilà, on va faire avec. Mais ce n'est pas nécessairement un drame. Voilà, on fera autrement. Et ces choses-là, encore une fois, moins on les anticipe, et plus ça sera désagréable. Donc la technologie, elle va nous permettre d'amortir un certain nombre d'évolutions. Elle va nous permettre de trouver d'autres choses. Un vélo électrique, c'est un objet technologique. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'équipementiers en France qui ont commencé à se mettre des pièces pour les vélos électriques. Si on passe de voitures importées à des vélos électriques fabriqués en France, on peut à la fois avoir de la sobriété dans les déplacements et gagner en emploi. En France. Hein. Donc il ne faut pas voir nécessairement le changement de mode de déplacement comme quelque chose qui est nécessairement dramatique. À chaque fois, il y a des choses intéressantes et des choses qui le sont moins. Et il faut essayer de faire le tri de telle sorte que l'option soit la plus intéressante possible. Mais de toute façon, les limites de l'exercice, je le redis, c'est que du pétrole, on va en avoir de moins en moins. Et que c'est un truc qui est tellement extraordinaire en termes physiques, j'ai envie de dire, hein, que les options pour le remplacer, on n'en aura pas à l'échelle. Voilà, c'est comme ça. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit très grave, si on s'organise bien. Pardon, je n'ai pas couvert les bâtiments. Les bâtiments, il faut remplacer les chaudières à fioul par des pompes à chaleur, en ayant isolé les bâtiments. Voilà. Et à ce moment, on tombe sur des problèmes pratiques qui sont avoir suffisamment d'artisans, avoir suffisamment de pompes à chaleur fabriquées en France et avoir une production électrique suffisante. Voilà, on tombe sur les problèmes pratiques de cette nature.
Alors... ce que je vous propose, on va essayer de prendre des séries de trois questions parce que sinon on n'arrivera pas à tenir le timing. Et je reprends l'ordre des groupes. Donc, Madame Magnier-Millefer, pardon. Ça va venir, hein, on sera ensemble pendant 6 mois.
Merci, Monsieur le Président. Pas d'inquiétude. Merci, Monsieur Jancovici. Alors, moi, j'ai une question sur les besoins de chaleur en France. Ça représente, je crois, 50% à peu près de l'énergie qu'on consomme en France, l'énergie finale. Pourquoi est-ce que les sujets des ENR thermiques sont si mal investis en France ? Vous avez évoqué le prisme électrique, mais enfin, il y a peut-être pas que ça. Donc, pourquoi est-ce que ça bloque autant ? Deuxième question... sur l'évolution des consommations énergétiques, on a tendance à voir que plus on augmente la production, plus on augmente les consommations. Est-ce qu'à un moment donné, il est possible de revenir en arrière sur un certain nombre de technologies inflationnistes énergétiques pour retrouver finalement des consommations qui, pour répondre à peu près aux mêmes usages, consomment moins d'énergie? On voit par exemple les véhicules. Ils deviennent de plus en plus gros, de plus en plus importants. Finalement, ils servent le même usage quand ils sont finalement plus petits, moins lourds. Ils font le même usage service rendu. Donc, est-ce qu'on peut revenir aux usages pour poser la question du besoin énergétique en France et du coup poser la question de la sobriété de cet angle-là? Et ma dernière question, c'est, vous avez parlé du consensus qu'il faut qu'on arrive à créer dans la population sur une stratégie énergétique globale qui dépasserait les alternances politiques. Mais en l'occurrence, les grandes oppositions de dissensus qu'on a pu avoir, c'était celle des ENR et du nucléaire pendant longtemps. Et pour le coup, vous y avez un peu contribué à créer du dissensus. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on dépasse ce dissensus et est-ce qu'aujourd'hui vous avez réglé vos dissensus avec les ENR?
Alors, monsieur... Pardon, on va prendre plusieurs questions. Monsieur Lenné. Ouais, alors... Alors, il y avait la chaleur, la sobriété et le consensus. Chaleur, usage... Alors attendez, on va vous trouver ça. Voilà, du coup, monsieur Lenné.
Merci, monsieur le président. J'attendais que monsieur Jancovici ait terminé parce que j'ai un certain nombre de questions. Merci à vous déjà pour l'exposé, les premières réponses aux questions. Je partage avec vous des objectifs assez ambitieux de sobriété. Je crois qu'on ne s'en sortira pas si on ne fixe pas des objectifs et si on n'arrive pas à les discuter avec les gens. La sobriété doit faire aussi l'objet de consensus dans la population. Bon, un certain nombre de questions assez précises. Sur le nucléaire et sur les renouvelables, pour finir, sur le nucléaire, on a le parc nucléaire actuellement confronté au problème des corrosions sont contraintes. Est-ce que vous avez des indications techniques sur le sujet, la possibilité de les surmonter? Sur les EPR, alors vous avez parlé des centrales de quatrième génération, mais actuellement, ce qui est en projet, c'est les EPR 2. On a le problème de Flamanville qui est toujours pas mis en service et qui doit être mis en service en 2023, mais je ne sais plus quel est le terme, mais de manière en mode dégradé, voilà. Et sur les EPR2 ailleurs dans le monde, à Taishan par exemple. On a entendu parler des SMR. Quel est votre avis là-dessus? Il me semble que le nucléaire pose aussi un problème de délai, parce que entre le moment où on prend la décision, ensuite la construction, en fait, est-ce que c'est vraiment raisonnable de parier là-dessus pour lutter contre le réchauffement climatique? Question suivante, c'est, vous avez évoqué le problème de sécheresse et du déficit d'eau et du réchauffement de l'eau. C'est un souci pour refroidir les réacteurs. Quel est votre avis là-dessus? La question du coût du nucléaire aussi, parce que je pense qu'il n'est pas, à l'heure actuelle, il n'est pas payé à son prix réel. EDF est endetté à hauteur de 60 milliards. Si on investit dans le nucléaire, est-ce qu'il va rester de l'argent pour investir dans les ENR? Septième question sur la question des déchets nucléaires, qui n'est quand même pas une petite question qu'on peut balayer d'un revers de main. Et pour terminer, puisqu'il y a quand même un sujet qui est le pilotable, dans les énergies renouvelables, on a le biogaz et on a l'hydrogène. Alors l'hydrogène qu'il faut d'abord produire effectivement avec de l'électricité, mais voilà, quel est votre avis là-dessus? Merci.
Du coup, vu la masse de questions, on va vous laisser répondre et puis on reprendra le cycle des questions après.
Il y a un plateau repas qui est prévu. Donc... Alors, pourquoi est-ce qu'on parle peu de la chaleur ENR dans ce pays? Je vais tenter une hypothèse. Mon hypothèse, elle est liée au Grenelle. Au moment où a eu lieu le Grenelle de l'environnement, Sarkozy avait dit « on ne parlera pas de nucléaire ». Du coup, les associations anti-nucléaires n'ont pas parlé de nucléaire, mais quand elles ont parlé de renouvelables, elles ont essentiellement parlé de renouvelables électriques, puisque quand on est anti-nucléaire, on est essentiellement intéressé par les renouvelables électriques. Et donc, il y a eu un gros accent qui a été mis dessus à l'époque, et le sujet n'était pas tant climat, puisque remplacer une énergie bas carbone par une autre énergie bas carbone, ça ne change pas grand-chose du point de vue du climat. À ce moment, l'accent était, sans le dire, mais quand même, une motivation anti-nucléaire. Donc, et ça s'inscrit dans une opposition, du reste, ça sera votre troisième question, qui est plus ancienne, et qui était aussi ma remarque tout à l'heure sur le débat public, en disant que l'opposition le nucléaire est l'élément pivot en général des débats publics sur l'énergie, beaucoup plus que les hydrocarbures, et donc ça a beaucoup structuré, y compris le développement des ENR pour moi, ça vient de ça. Encore aujourd'hui, alors je ne sais pas, bon, les dernières informations que j'avais dataient de 2018 ou 2019. En 2018 ou 2019, vous aviez quand même plus de deux tiers des Français qui pensaient que le nucléaire contribuait significativement aux émissions de gaz à effet de serre. Et à mon avis, c'est une conséquence directe de ce débat et du fait qu'on a très longtemps opposé ENR au nucléaire, au lieu de mettre ça dans une même famille d'énergie bas carbone, ce qui aurait évidemment changé différemment, sur lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord sur la répartition, mais c'est un autre sujet. Ce qui aurait changé la perception du public. Alors là, pour le coup, c'est très différent dans d'autres pays européens. Il y a beaucoup d'autres pays européens. Mais en général, quand la chaleur renouvelable a fait l'objet de politiques de promotion anciennes, c'est que le pays avait par ailleurs un potentiel important. Donc dans les pays du Nord qui ont des gisements forestiers très importants rapportés à la population, la chaleur renouvelable fait l'objet d'efforts depuis longtemps. Quand vous êtes en Islande, qui est un peu plus peuplé que Boulogne-Billancourt, mais pas beaucoup, et que vous avez le potentiel géothermique que vous avez, ben, c'est pareil, il y a une promotion de la chaleur renouvelable qui est faite depuis longtemps. Il y a probablement aussi, peut-être qu'il y a aussi en France cet élément qui a joué. C'est-à-dire que la chaleur renouvelable, elle n'avait pas un potentiel très important. Quand elle avait un potentiel important dans certaines régions de France, je pense en particulier aux DOM, à ce moment, elle a fait l'objet d'une promotion aussi, puisque les chauffe-eau solaires sont raisonnablement répandus dans les territoires d'outre-mer. Comment est-ce qu'on fait en sorte de limiter les usages ? Ben, en le décidant. Rien ne nous empêche, en théorie, de militer à l'Europe, puisque maintenant c'est l'Europe qui a la compétence, pour qu'on limite le poids des véhicules neufs vendus. Il n'y a pas de limite physique à ça. Il y a juste une affaire de volonté. Il faut bien voir que quand on augmente les usages, en fait, ça augmente l'activité économique sous-jacente. Et quand on a comme prisme de lecture premier, quoi qu'on fasse, le prisme économique, en fait, on va assez rarement chercher à limiter les usages, même quand il s'agit de fumer, quand il s'agit de manger et de boire trop sucré ou trop gras, etc. On ne va pas limiter les usages. On en fait même de la pub. Donc en fait, dès lors qu'on prend les activités sous l'angle économique, il y a un mécanisme qui se met en route, naturellement, qui est de pousser à l'inflation des usages, parce que c'est ça qui pousse à l'inflation de l'activité. Donc ça veut dire que si on veut en sortir... Ça renvoie au débat qu'on a eu tout à l'heure. Il faut qu'on accepte de changer la hiérarchie des indicateurs. Ce qui n'est pas simple, mais ça passera par là. Est-ce que je suis sorti du dissensus ? J'ai toujours la même opinion en ce qui concerne la pertinence de remplacer du nucléaire par des ENR. Ça, j'ai toujours dit que c'était un truc qui servait à rien et je continue à penser que ça ne sert à rien. Après, délibérément, hein. Je dis bien délibérément, je pense que ça ne sert à rien. Et que ça a été une perte de temps et d'argent. Maintenant, est-ce que dans le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est stupide de faire des ENR ? Non. Et ça dépend lesquels et ça dépend pourquoi faire. Donc je continue à penser qu'il faut raisonner de manière pragmatique et différenciée. Et qu'il ne faut parer ni nucléaire ni ENR de tous les brevets de vertu. Encore une fois, toutes les énergies ont des avantages et des inconvénients. Et ce que j'espère, c'est de... Enfin, il me semble que la bonne situation est celle dans laquelle on juge sur pièce. C'est évidemment pas la situation dans laquelle nous sommes le plus souvent, mais c'est vers ça qu'il faut essayer de tendre. Alors, est-ce que j'ai des informations sur la corrosion sous contrainte ? Oui, il y a des informations publiques. Il y a Lewandowski qui a fait une audition à l'OPEXT, pas plus tard qu'il y a quelques jours, dans laquelle il a repris, il a fait quelque chose d'assez complet. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Allez voir parce que c'est assez complet. Et en particulier, les indications, il fournit un certain nombre d'indications techniques sur la chose. Qu'est-ce que je pense de l'EPR2 et des SMR ? Alors, je pense que l'EPR était un truc qui était trop compliqué, parce qu'on a cherché à faire plaisir à la fois aux Français et aux Allemands, parce que je vous rappelle que c'est un réacteur de conception franco-allemande. Depuis l'origine, l'ASN n'a jamais eu à sa charge, je ne dis pas qu'il faut qu'elle l'ait, mais je rappelle juste, n'a jamais eu à sa charge de faire un arbitrage coût-bénéfice sur les mesures de sûreté qu'elle est chargée de mettre en œuvre. Dit autrement, son seul prisme de lecture, c'est il faut que ce soit sûr. Mais si le fait que ce soit trop sûr engendre un risque de défaut d'approvisionnement qui lui-même pourrait avoir des conséquences extrêmement délétères, c'est hors de son mandat. C'est hors de son champ. Or, il me semble qu'on ne pourra pas faire l'économie dans un monde qui va lui-même être en économie de moyens de se poser ce genre de questions. C'est-à-dire, il me semble qu'à l'avenir, on va nécessairement être obligé de se poser la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on accepte de ne pas disposer à temps. Mais c'est vrai pour n'importe quoi. C'est aussi vrai pour les éoliennes qui emmerdent un certain nombre de gens et pour lesquels on se dit, bah, ils nous enquiquinent, on va quand même en faire parce que c'est nécessaire. Hein. Donc c'est vrai d'une façon plus large. On va nécessairement être obligé de revoir l'arbitrage avantage-inconvénient à l'aune d'un monde dans lequel on est un peu dans une course contre la montre et dans lequel on va être en économie forcée de moyens de façon croissante. C'est dans ce cadre-là qu'il va falloir raisonner, ce qui est un cadre évidemment beaucoup moins confortable que le cadre dans lequel on raisonnait jusqu'à maintenant, qui est un cadre dans lequel on se dit on a le temps. Et on n'a par ailleurs pas d'effet d'éviction, puisque dans un monde en croissance et où on n'est pas en pénurie de moyens, on peut courir plein de lièvres à la fois. Dans un monde dans lequel on n'est pas en croissance, si on court le mauvais, c'est qu'on ne court pas le bon. Et là, on a un effet d'éviction dont on paye le prix directement. Hein. Donc dans ce monde-là, est-ce qu'il faut faire un nucléaire aussi sûr, entre guillemets, ou plus exactement aussi complexe plutôt que sûr, que celui qu'on fait aujourd'hui, c'est pas évident. Est-ce qu'il ne faut faire que des EPR2 pour remplacer le parc actuel ? Je ne le crois pas. Personnellement, j'ai envie de dire la solution qui aurait ma préférence, c'est de mettre le paquet sur le développement de la quatrième génération, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à 15 ans de pouvoir disposer, si on se met entre guillemets en économie de guerre, hein, qui est un terme que j'utilise parfois, on est à 15 ans de pouvoir disposer de modèles déployables, et à ce moment on fait la jonction avec des EPR le temps de pouvoir commencer à déployer de la quatrième génération, mais on n'en fait pas plus que ça. Voilà, c'est pas une option aujourd'hui qui est sur la table. Et dans l'intervalle, c'est évident que aujourd'hui, la seule option qui reste, donc aux Français de décider quelque part, si on veut plus d'électricité, même si elle n'est pas pilotable, c'est de rajouter des moyens ENR dans les 10 à 15 ans qui viennent. Hein, y a rien d'autre à faire. Hein, parce que ça va quand même plus vite de rajouter une éolienne que de rajouter un réacteur. Ce qui, avec les ENR, la difficulté est dans le système. Donc elle n'est pas dans l'objet. Faire une éolienne, c'est pas compliqué. Par contre, faire un système qui repose majoritairement sur des sources non pilotables, ça, c'est tellement complexe que personnellement, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à y arriver. Hein. Mais on peut en rajouter un peu, ça, c'est clair. Et par ailleurs, il y a un scénario que j'ai trouvé assez malin, qui a été publié il n'y a pas très longtemps par une association qui s'appelle Voix du nucléaire, dans lequel la proposition, c'est de construire dans les décennies qui viennent, à la fois, tant qu'on n'est pas capable de faire la jonction avec du nucléaire de quatrième génération et du nucléaire de troisième pour lui-même faire la jonction, c'est de développer des moyens ENR et des steps, de construire des steps en France. Voilà. Je trouve que ça se regarde. Il faudrait regarder ça d'un peu près. Je trouve que c'est pas... Il y a quelque chose de séduisant dans cette approche. Alors, je ne l'ai pas regardé sous toutes les coutures, je l'ai pas, etc. Mais je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant. Et ce qu'eux disent, alors ça vous plaira peut-être moins, mais ce qu'eux disent, c'est une fois qu'on est capable de déployer du nucléaire de quatrième génération et qu'on retombe sur des choses qui sont pilotables, compactes, etc., à ce moment, les éoliennes qu'on a construites une fois, ben, on ne les reconstruit pas une deuxième. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'en a plus besoin, au bout de 30 ans, on les déconstruit, puis on s'arrête là. Ça se regarde, je trouve que c'est pas inintéressant comme scénario. Qu'est-ce que je pense des SMR? Si c'est small, ça sera small. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui va significativement changer la donne. En fait, ça peut être très intéressant pour les régions insulaires qui aujourd'hui dépendent de l'électricité au fioul ou de l'électricité au charbon. Donc ça peut être intéressant pour eux. Alors, après, il y avait tout un tas de trucs sur le nucléaire. Allez, les délais, je pense que j'y ai répondu. Hein. Voilà. Sécheresse, c'est un problème de production, c'est pas un problème de sûreté. En fait, comme vous le savez probablement, quand on met un réacteur à l'arrêt, parce que, pour Dieu sait quelle raison, hein, vous avez besoin, pour le maintenir en conditions froides, d'un millième de l'eau dont vous avez besoin en fonctionnement normal. Donc, si jamais vous avez plus assez d'eau, le risque que vous courez, c'est le défaut de production, mais vous ne courez pas un risque pour la sûreté. Alors, le risque en défaut de production, il existe pour tous les modes qui dépendent de l'eau. Donc, il existe pour les centrales nucléaires, il existe pour les centrales thermiques, alors accessoirement, on n'en veut plus non plus. Il existe aussi pour l'hydroélectricité, j'en ai parlé tout à l'heure. Une anecdote ridicule, une anecdote marrante, je ne sais pas si vous le savez, mais la plus grosse centrale nucléaire américaine fonctionne sans mer et sans rivière, elle fonctionne avec les eaux usées d'une ville. Donc ce qui lui sert de source froide, c'est les eaux usées d'une ville. La question du coût. Alors la question du coût du nucléaire est pour moi essentiellement une question de cadre de marché. Vous savez, vous avez probablement entendu parler du coût du mégawattheure de la centrale de Hinkley Point. qui va sortir à un peu plus de 100 livres, c'est-à-dire quelque chose entre 100 et 150 euros de mémoire. J'ai fait un petit calcul, et en fait, si le financement de cette centrale avait été fait avec de l'argent disponible à 2% par an et non pas avec de l'argent disponible à 10% par an, comme c'est le cas dans le cadre de marché aujourd'hui où les acteurs prennent leurs risques, etc., la même centrale aurait produit des mégawattheures aux alentours de 50 euros. Donc en fait, le vrai sujet du coût du nucléaire pour moi, c'est les structures de financement. Et la structure de financement dépend essentiellement du fait que ça soit mis dans un cadre public ou pas. Donc je vais le dire autrement, le nucléaire pour moi n'a rien à faire dans un cadre privé. C'est par essence une activité qui est régalienne, qui relève de l'État et qui doit accéder à des financements qui sont ceux de l'État. Mais j'ai le même raisonnement pour les ENR. Je fais partie des gens qui considèrent que d'avoir fourni des produits financiers à 15% de rendement sur capitaux investis sur les premiers panneaux solaires, c'était quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. La question des déchets, alors c'est une question qui est très importante dans le débat public, c'est-à-dire quand on regarde de quoi les gens ont peur quand il s'agit du nucléaire, les déchets c'est quelque chose qui arrive assez haut hein, dans l'ordre de priorité. Et alors c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas du tout raccord avec la hiérarchie des nuisances quand on regarde tout ce qu'on bazarde dans l'environnement. C'est-à-dire que quand on regarde tout ce qu'on bazarde dans l'environnement, le CO2, les phytosanitaires, les particules fines, etc., en fait, les déchets nucléaires, pour moi, alors, ça va peut-être faire sauter en l'air quelques personnes dans cette salle, mais c'est vraiment du deuxième ordre. Enfin, c'est tout petit. Il y en a quelques-uns. Alors évidemment, c'est des franches saloperies, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est confiné, etc. Et de très loin, l'option préférentielle, c'est de les mettre dans un trou et de les oublier. C'est exactement ce que les Suédois ont décidé de faire. Je considère que le retraitement est une bonne idée parce que ça permet de concentrer le volume qu'il y a à stocker derrière de façon très importante. Et puis ça permet de récupérer un certain nombre de choses qui sont récupérables dans les assemblages usés. Par contre, il me semble que la réversibilité du stockage, je sais qu'il y a des gens qui y tiennent beaucoup, personnellement ça ne me semble pas crucial. Il y a un stockage non réversible qui s'est fait de façon tout à fait naturelle il y a 2 milliards d'années dans une mine d'uranium au Gabon, à Oklo, où des réacteurs sont apparus spontanément. Il y a le détail dans quelques-uns de mes ouvrages, je peux vous donner les références, ça vous amuse. Et donc les déchets qui ont été produits à l'époque, c'est-à-dire des produits de fission qui ont été produits à l'époque, en fait ont très peu migré par rapport à l'endroit où ils ont été formés. Et c'était il y a 2 milliards d'années. Donc je suis pas du tout inquiet quant au fait que si on les met dans une, vous savez, dans une couche géologique profonde, on est capable de mettre du pétrole et du gaz sous pression qui va rester là pendant des millions d'années. Et pourtant, c'est fluide et c'est à haute pression. Donc, dans une couche géologique appropriée, on peut très bien mettre quelque chose de solide, c'est-à-dire des colis vitrifiés, et pas être très inquiet sur le fait que tel zébulon, ça va nous sauter à la figure 50 ans derrière. Dernière chose qu'il faut savoir sur les déchets, c'est que les produits de fission, au bout de quelques siècles, sont revenus au niveau de radioactivité de l'uranium initial. Au bout de quelques siècles. Oui, mais enfin, c'est moins que Notre-Dame. Hein. Bon. Qui est à l'air libre. Qui est à l'air libre et qui est beaucoup plus agressé. Voilà. Donc, c'est pour dire, souvent le chiffre de 100 000 ans est mis en avant. En fait, il faut voir que la partie la plus radiotoxique de ce qu'on produit, ça ne vit pas du tout cette durée-là. C'est beaucoup plus court. Qu'est-ce que je pense du biogaz et de l'hydrogène ? Alors, le biogaz, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est intéressant pour des usages de niche. Alors, le biogaz est une énergie dérivée de la biomasse. Donc, faire ce qu'ont fait les Allemands, c'est-à-dire faire des cultures dédiées pour faire des grandes quantités de biogaz, est quelque chose qui ne me paraît pas du tout pertinent. Par contre, faire du biogaz avec des déchets agricoles ou avec des couvertures intermédiaires et ensuite s'en servir prioritairement pour remplacer les combustibles fossiles de la mécanisation agricole, ça c'est quelque chose qui me paraît tout à fait pertinent. Dans le plan de transformation de l'économie française, on propose de déconstruire le réseau de gaz en France, puisqu'on propose de se passer de gaz tout court, qui est essentiellement fossile aujourd'hui. Donc du coup, l'injection dans le réseau devient un peu moins intéressante. Et enfin, la production électrique, elle peut éventuellement être intéressante à partir du moment où on s'en sert pour remplacer le gaz dans les usages dans les turbines, quoi, dans des usages d'hyperpointe. Mais à ce moment, c'est plus tellement le même genre d'installation, parce qu'il faut des grosses installations. histoire d'avoir des quantités de gaz qui ne sont pas complètement ridicules. L'hydrogène pour stocker de la production électrique intermittente, le rendement de chaîne est extrêmement mauvais. Il est de l'ordre du quart, c'est-à-dire que vous perdez 75% de l'énergie électrique initiale. Donc il vaut mieux, si on veut absolument stocker de l'électricité, faire des stations de pompage. Voilà, reste à convaincre quelques habitants de Savoie qu'on va noyer les vallées avec l'eau du lac Léman.
Merci bien. On reprend le tour des groupes. Monsieur Bolo.
Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Jancovici. Je voudrais revenir sur deux points que vous avez évoqués avec nous. Le premier, c'est l'accès aux métaux qui conditionne notre indépendance énergétique. Et ensuite, le deuxième point, c'est la disponibilité des ressources qui est un facteur limitant d'une économie. Mais une économie, ça produit aussi des déchets ou des objets en fin de vie qui ont une valeur selon le principe de l'économie circulaire. Vous nous évoquiez une énergie plus importante nécessaire pour extraire des métaux à la teneur réduite dans les mines. Cette même quantité d'énergie pourrait être utilisée pour recycler des métaux qui se prêtent d'ailleurs plutôt bien au recyclage. Donc la question est très simple. Quelle est votre analyse de l'économie circulaire?
Alors, Madame Battistel.
Ah, pardon.
Oui, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup pour toutes les réponses fournies que vous avez apportées. D'ailleurs, ça nous laisse assez peu de questions maintenant. Simplement revenir sur l'objet de notre commission d'enquête, c'est analyser l'éventuelle perte de souveraineté ou d'indépendance énergétique de la France. Du coup, vous nous expliquez, comme beaucoup d'autres, qu'elle n'a jamais été atteinte et... Pour se servir des erreurs qui auraient pu être faites par le passé, on a besoin de cette analyse et je crois que c'est véritablement l'objet de notre commission d'enquête. Vous nous avez expliqué que sur toutes les énergies, finalement, l'indépendance, la souveraineté est inatteignable parce qu'on dépend de toute façon d'un matériau, que ce soit pour l'éolien, pour les pompes à chaleur, pour le pétrole, pour l'énergie nucléaire, etc. Sur la question de l'hydro, il y a effectivement le stress hydrique, mais on a un certain nombre d'études qui nous disent quand même que la courbe de pluviométrie peut-être très accentuée, enfin très fluctuante, mais quand même les quantités peuvent être là. Et l'hydroélectricité a cette capacité de stockage et sa flexibilité qui peut peut-être lui permettre d'avoir une sortie. Alors je parle de la grosse hydroélectricité et pas de la petite dont vous avez parlé ou de la micro. Et vous évoquiez d'ailleurs la question des steppes, dont un certain nombre de projets sont sur la table, pas que dans la vallée de la Savoie, mais bien ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a une acceptabilité suffisante pour aujourd'hui voir arriver une steppe dans une vallée, quelle qu'elle soit? Et ces avantages de steppe, c'est quand même à la fois la flexibilité et la question de la pointe que l'on évoquait tout à l'heure. Sur le nucléaire, bon, vous avez largement répondu à mon collègue, donc je ne vais pas y revenir. Et j'avais une deuxième question qui était je l'ai perdue, mais ça me reviendra probablement, en tout cas sur cette question. La dernière question, c'était finalement, si on écoute vos propos, on serait plutôt dans la situation où il faut se poser la question plutôt de savoir quelle est l'énergie qu'il faut produire, comment on réorganise notre société pour, in fine, se passer d'un certain nombre de productions qu'on n'aura de toute façon plus dans les années qui viennent. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est à ce stade de conscience des populations et du monde politique, évidemment, dans cette orientation-là?
Alors, on va encore prendre les questions de M. Alfandari et de Mme Lernos, comme M. Jean Vaucovici note tout.
Je vous remercie, M. le Président. M. Jancovici, merci de vos propos. Vous avez déjà répondu à une large partie de ce que je voulais vous demander. Mais bon, sur le principe, sur l'hypothèse de base de faire moins et de faire avec ce qu'on a déjà prélevé, c'est certain. Je dois avouer que j'aime bien votre point sur la différence entre l'indépendance et le confort. Il y a probablement peut-être plus de souveraineté du côté du confort que de l'indépendance, qui est peut-être assez illusoire, sauf si on cherche des guerres. Dans vos travaux, vous l'avez clairement dit, hein, on a à peu près plus qu'une seule cartouche à tirer. On a 20 à 30 ans pour agir au niveau mondial. Et ce qui est extrêmement difficile, c'est le phasage. C'est très clairement, c'est d'arriver à voir la différence entre ce qui est mature, entre ce qui sera intéressant et deviendra mature à terme, et la manière dont on déploie l'ensemble de ces solutions à travers le temps. Typiquement, c'est ce que vous disiez sur le réacteur de quatrième génération. Là, j'étais avec des gens du nucléaire qui me disaient 50 ans pour la quatrième. Vous dites, si on décide et qu'on y met la volonté, 15 ans. Donc voilà, il y a la question de combien de réacteurs on déploie, quelle génération en déploie, pour quelle jonction. Il y a après dans vos travaux, je sais qu'il y a des points un peu qui sont mis un peu de côté, qui est clairement l'identification de la ressource. Par exemple, on parlait des déchets juste avant et de l'économie circulaire. Il y a des procédés de gazéification sur une partie de choses qui ne sont plus traitables. Mais en même temps, si on veut diminuer les produits pétroliers, si on est sur d'autres types de plastiques, est-ce qu'il y a des plastiques qui sont circulaires, sur lesquels on va trouver le même potentiel hydrogène ou pas? Il y a le problème donc des dimensionnements industriels de ce qu'on va faire. Et puis toute la question du progrès. Par exemple, j'ai visité une société qui fait de l'impression 3D, qui aujourd'hui fait des pièces qui sont beaucoup moins lourdes, notamment pour le transport ferroviaire, sans perte de matière. Il y a des gains probablement à trouver par là. Et pareil, dans vos travaux, vous l'esquissez, mais on ne prend pas trop en compte la question de l'aménagement du territoire. Dans les modes de vie qu'on va changer, il y a bien sûr des usages, comme Marjolaine le disait, qu'on pourrait abandonner, mais il y a aussi la question de comment on occupe le territoire et comment on vit dessus. Et ça, c'est extrêmement difficile à prendre en compte. Et puis enfin, je vais être un peu provoque pour tous les Blancs, on voit bien que ceux qui gagneront demain ne sont pas forcément ceux qui perdront aujourd'hui, qui a l'accompagnement de ça. Et moi, ça me pose la question du salaire universel, par exemple. Salaire universel, dividende universel, enfin, quel que soit le nom, en tout cas, quelque chose qui vient clairement accompagner les gens dans cette mutation profonde qui va toucher nos systèmes économiques, nos systèmes sociaux, nos systèmes de production, de déplacement et d'habitat.
Madame Lernos.
Oui, merci. Plusieurs questions et plusieurs réactions aussi. Tout d'abord, le Shift Project et les travaux que vous avez menés ont éclairé un certain nombre de points importants, notamment sur la sobriété, de prendre de manière globale les problématiques et vos propos introductifs, notamment sur avoir l'économie comme donnée sortante et non pas entrante en fonction des ressources dont on dispose, favorise la réflexion un peu plus approfondie et globale, plutôt que de se dire qu'il y a une solution technologique qui va sauver tout notre climat et nous préserver du réchauffement climatique à venir. Et je pense que l'accent n'est d'ailleurs pas assez mis souvent, y compris quand on évoque votre nom. Souvent, ce n'est pas vos propos ou vos travaux sur la sobriété, la rénovation, sur ce que vous avez eu comme propos et qui sont dans vos écrits aussi, notamment vis-à-vis du transport aérien, où là, il n'y aura pas de solution technique qui permettra de continuer à se déplacer sur des longs cours comme nous le faisons aujourd'hui, mais qu'il y a là, dans vos écrits, de manière scientifique, technique, étayée, le fait qu'il faut envisager une autre manière de vivre et une autre manière de partager aussi les ressources qui me semble importante, sur lesquelles il faudrait, à mon sens, mettre plus l'accent. Je reviendrai sur, vous avez évoqué effectivement la question du consensus et je pense que vous et votre nom aujourd'hui évoque pas mal de dissensus, y compris par rapport aux écologistes, puisque dans les travaux et puis dans les propos que vous avez tenus, y compris sur la responsabilité qui serait due à l'accord électoraliste entre le Parti socialiste et ma formation politique Europe Écologie Les Verts, ça serait là le début des mots et la perte de souveraineté, en tout cas en matière de nucléaire. J'ai envie de dire que pour le physicien que vous êtes,
dans le réchauffement climatique et la lutte qui nous rassemble toutes et tous, en tout cas dans les solutions qu'on essaye d'y apporter et d'y trouver, on sait très bien que c'est les 15 prochaines années qui sont cruciales puisque les émissions de gaz à effet de serre s'accumulent aujourd'hui et provoquent donc un réchauffement climatique qui va s'amplifier. Or, la solution qui semble trouver la seule solution, j'ai envie de dire, qui semble trouver la vraie grâce à vos yeux, qui est le nucléaire, ne pourra pas se déployer de manière massive, comme vous l'appelez de vos voeux, d'ici les 15 prochaines années. D'ailleurs, vous évoquez sur les points de vue technologiques, entre l'EPR 3e génération, 4e génération, on ne sait pas exactement sur quelle technologie on pourrait s'appuyer pour lancer d'un point de vue massif. Vous dites vous-même que c'est assez utopique d'un point de vue de réalisation parce que tout n'est pas aligné dans ce sens-là. Et donc, j'ai quand même une interrogation réel de savoir quand vous faites tous ces travaux et aligner tous ces travaux, on voit bien que la fermeture de Fessenheim aurait pu largement être compensée si l'État français avait réellement investi dans les énergies renouvelables, avait tenu ses objectifs, et y compris en matière de sobriété, que ce soit dans les transports ou dans tous les potentiels, j'ai envie de dire, non activés dans la rénovation énergétique et thermique. On voit que ça serait 10 fois supérieur à ce que était la production de Fessenheim. Et d'ailleurs, les responsables à ce moment-là, que ce soit RTE, y compris au sein d'EDF, avec Fukushima qui est intervenu, les investissements étaient trop élevés dans la sécurisation de la centrale de Fessenheim, pardon, pour pouvoir la maintenir ouverte. Et donc, c'est là une. Enfin, j'ai une réelle interrogation, puisque tout semble conjugué pour vous vers le nucléaire. Or, il me semble que si vous prenez les faits là où on en est, les émissions de gaz à effet de serre qu'il faut aujourd'hui éviter, ça ne paraît pas le plus logique, y compris en termes d'ingénierie, d'utilisation de métaux, d'utilisation d'importation, puisqu'il faut aussi importer l'uranium. Et je voudrais revenir aussi, puisque vous avez, et vous êtes le premier qui répond à la question, parce que nous avons posé la question à de nombreuses reprises, sur la question du réchauffement climatique et de la sécheresse. C'est-à-dire que tous les centrales nucléaires sont construites à proximité de cours d'eau. On voit que cet été, en dehors des problèmes de corrosion sous contrainte et du vieillissement du parc actuel, on voit que cet été, on a autorisé des dérogations au droit pour pouvoir rejeter de l'eau plus chaude dans nos fleuves et qu'on va manquer de plus en plus d'eau. Et je ne trouve pas très sérieux, alors que vos propos sont très étayés et factuels, de dire qu'on va utiliser l'eau des égouts, qui par ailleurs peut être relativement plus chaude, pour refroidir les réacteurs nucléaires. Et puis on parle dans le projet de loi d'accélération sur le nucléaire également de déroger au droit littoral, notamment pour construire des nouveaux réacteurs le long des côtes. Or on voit là aussi que le réchauffement climatique va engendrer une hausse du niveau de la mer. Et donc, j'ai une vraie interrogation sur, et un vrai regret, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que autant une grande partie de vos travaux illustrent et sont importants et contribuent à l'évolution des consciences et des actes, y compris dans le secteur privé, parce qu'on ne pourra pas diminuer nos émissions de gaz à effet de serre sans accompagner et avoir le secteur privé avec nous, pour s'interroger sur ce qu'on produit, pourquoi on le produit. Pour autant, la solution monomaniaque sur le nucléaire me semble, pour le coup, créer du dissensus alors qu'il nous faudrait un consensus et, pour le coup, une vraie arme de guerre pour lutter contre le réchauffement climatique qui va plus sur la sobriété, la rénovation et les énergies renouvelables. Et il y a des scénarios qui comprennent tout cela et qui disent aussi que c'est tout à fait faisable. Vous faites le choix d'en choisir un autre. Mais voilà, c'est ça mon interrogation principale. La question est assez simple, c'est-à-dire que vous misez, y compris en termes de matériaux disponibles, du cuivre, etc. Vous dites les énergies renouvelables sont trop gourmandes pour cela et ne produisent pas assez d'électrons. Vous dites qu'il n'y a que le nucléaire qui peut faire ça. Or, vous hésitez vous-même entre les différentes générations et vous dites que les ENR sont là que pour faire la jonction. Or, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui contre le réchauffement climatique d'ici le fait qu'on puisse, de manière hypothétique, construire de nouveaux réacteurs nucléaires? C'est-à-dire que même vous, vous n'avez pas d'informations ou de propositions fiables sur quelle génération. Vous nous avez parlé de l'uranium 235 et 238. Et puis, sur les propositions en termes des ressources qui nous sont disponibles, notamment les ressources en eau pour refroidir les réacteurs, pas non plus. Donc je ne comprends pas, quelque part, malgré la richesse des travaux et des propos, pourquoi vous vous entêtez sur cette unique voie du nucléaire. C'est ça ma question.
Merci beaucoup. Monsieur Jean-Cousy, je vais vous laisser répondre. Je vous informe qu'avant, je prendrai une dernière série de questions après, parce que là, comme ça, on a fini le tour des orateurs de groupe, et on fera une dernière série de questions. J'ai noté trois personnes encore. Voilà, je vous laisse la parole.
Alors, où est-ce que j'en étais dans la première série de questions concernant les métaux, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, quand on utilise le terme d'économie circulaire, en fait, il y a une petite méprise. Les atomes sont recyclables, l'énergie jamais. Donc, il faut bien voir que d'aller récupérer des atomes là où ils sont, c'est ça l'économie circulaire, hein. J'ai des atomes, j'ai des molécules dans un plastique, un polymère, hein, et je vais essayer de les récupérer pour en refaire un polymère. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui va quand même vous demander de l'énergie. Donc, l'économie circulaire, elle peut être une solution partielle ou importante à des questions de disponibilité en matière, en ressources. Par contre, ça va toujours, même l'économie circulaire, avec une mise en œuvre, avec la disponibilité d'une source énergétique. Dans certains cas de figure, l'énergie du recyclage n'est pas considérablement inférieure à l'énergie de la production de matières primaires. C'est notamment le cas du papier. C'est un exemple qui est bien connu, parce que désancrer le papier, c'est très énergivore. Et donc, recycler du papier, ça permet assurément d'éviter de couper des arbres, puisque ça permet d'éviter ça permet d'éviter de s'approvisionner en fibres de bois vierges. Par contre, sur le plan strictement énergétique, on ne gagne pas énormément. Alors, il y a des métaux qui se recyclent facilement, il y a des métaux qui se recyclent beaucoup plus difficilement. Les métaux qui se recyclent facilement, c'est les métaux qui sont peu alliés. Par exemple, le cuivre est un métal qui s'utilise tel que, il n'est généralement pas allié, on ne mélange pas avec un autre métal, se recycle extrêmement bien, il est extrêmement fortement recyclé. Vous avez d'autres métaux qui s'utilisent en étant alliés, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans un alliage, et par exemple le manganèse est un adjuvant de l'acier, et vous n'avez pas d'usage de manganèse pur, enfin très peu, donc pour récupérer du manganèse, en fait, il faut récupérer de l'acier. Bon. Vous avez un certain nombre de petits métaux qu'on appelle les terres rares qui sont dans l'électronique par exemple, qui sont dilués à des concentrations qui sont beaucoup trop faibles pour que ce soit facile de les récupérer dans les objets dans lesquels ils sont. Donc on peut le faire, mais avec des dépenses énergétiques extrêmement importantes qui peuvent être éventuellement supérieures à la dépense énergétique d'extraction de la croûte terrestre. Donc il n'y a pas de réponse unique à faire à la question que vous posez. Là aussi, il faut regarder en fonction du métal, etc. Il faut bien voir que souvent, pour les métaux qui valent un peu cher et qui sont disponibles quelque part sous forme un peu pure, les opérations de recyclage, elles ont déjà lieu. Ça existe déjà. Par exemple, tout ce qui est chute dans l'usinage, en général, c'est des métaux qui sont recyclés. C'est très rare que ces trucs-là soient perdus. Parce que ça, c'est quelque chose qui est facile à utiliser, facile à recycler, etc. Les carcasses de voitures, c'est facile à recycler. Vous les collez directement dans le convertisseur. Et ça, voilà. Par contre, je le redis, il y a d'autres métaux, c'est plus difficile de les récupérer. Et il y a d'autres ressources, c'est plus difficile de les récupérer aussi. Par exemple, sur certains plastiques, dépolymériser des plastiques pour les repolymériser derrière, ça peut être extrêmement compliqué, ça peut ne pas être possible, ça peut être très énergivore. Quand un plastique est vieux, il peut avoir été un peu fatigué par le rayonnement ultraviolet, ou etc. Donc vous n'en refaites pas l'usage initial. C'est le fameux exemple de la fourrure polaire qui est faite avec des déchets de bouteilles. Hein. Voilà, donc il y a des choses à faire. C'est très difficile de faire une réponse générale, donc il faut regarder au cas par cas. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on peut gagner quelque chose, il faut le faire. Après, il y avait une question sur les steps, c'est ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de steps ? Et quelle est l'acceptabilité pour en faire ? L'acceptabilité est faible, comme pour à chaque fois que vous avez l'intention de construire quelque chose quelque part. La réponse un peu plus générale que je pourrais faire, c'est que une des choses sur lesquelles il faut arriver à se mettre d'accord, mais c'est difficile à installer dans le débat politique, par jeu même du débat politique, c'est l'idée que les temps qui viennent ne se prêteront à aucune solution parfaite. Et que donc il va falloir accepter de façon un peu partagée ce qu'on considère être le plus faible inconvénient, ou l'idée qu'on se fait collectivement du plus faible inconvénient. Et évidemment, ça sera toujours au détriment des gens qui vont être localement concernés par le plus faible inconvénient. Donc si on décide que le plus faible inconvénient, c'est de faire des steps, il y a quand même des gens qui sont localement là où on va faire la step qui ne vont pas être d'accord du tout. Du reste, le droit a prévu depuis très longtemps qu'on puisse passer par-dessus la tête de ces gens-là, hein, c'est les procédures d'expropriation. Toute la question, elle est de savoir collectivement où est-ce qu'on met le moins de douleur pour le plus de bénéfices pour la collectivité. C'est toujours ça la question. Sachant qu'à un moment, il y a toujours des gens, il va falloir leur passer par-dessus la tête. Mais on a exactement le même problème avec n'importe quelle installation qui demande de couler du béton quelque part. Hein. C'est... Voilà. On a le problème partout. Alors, après, il y avait tellement de questions. J'ai noté plein de trucs. Il y avait un sujet sur le progrès, il y avait un sujet sur l'aménagement du territoire. Et comment se passer d'un certain... Oui, comment installer la sobriété. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'arriver à installer la sobriété va avec le fait qu'il y a le cadre physique dans lequel nous devons raisonner à partir de maintenant ne nous laisse plus toutes les options. Alors il y a des domaines dans lesquels on le sait depuis longtemps. Par exemple, si je bats des bras dans cette pièce, je ne vais pas voler pour autant. Donc il y a des degrés de liberté physique qu'on n'a pas, on le sait depuis longtemps. Ce qui est beaucoup plus désagréable, c'est d'accepter l'idée que des degrés de physique qu'on a eus, par exemple, pour quelques heures de SMIC, de monter dans un engin qui va à 800 km/h et qui vous emmène à 2000 km de là où vous êtes, on ne l'aura plus. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Et ça va nécessairement avec une notion, un mot que je n'ai pas encore prononcé jusqu'à maintenant, qui est le mot de l'équité. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, comme vous le savez probablement, un petit débat sur la question des jets privés. Alors quand vous regardez ce que représentent les jets privés dans les émissions du pays ou la consommation de carburant du pays, ce n'est pas quelque chose qui est absolument... crucial. Par contre, c'est très emblématique d'un luxe ostentatoire qui apparaît comme insupportable à des gens qui vont devoir faire des efforts sur des gestes qui sont unitairement des gestes beaucoup plus modestes. Hein. Et donc la question de la sobriété, pour moi, elle est fondamentalement associée à la question 1 de la maîtrise de son propre destin. Donc ça renvoie à la question qui a été posée par votre collègue du RN tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait pour que des gens acceptent de continuer à avoir l'impression d'être maître de leur destin, alors même qu'il y a des choses qui physiquement leur seront plus accessibles. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment une question cruciale. Et ça va également avec l'idée d'un arbitrage entre moins de liberté aujourd'hui pour plus de liberté plus tard. Parce qu'il y a aussi une question qui a été posée sur la démocratie. Le fait de pouvoir continuer, du reste par le même, le reste de pouvoir continuer à vivre en démocratie dans 20 ans, combien est-ce qu'on est prêt à payer aujourd'hui en kilomètres en voiture non effectués pour conserver ça. Bon, et il y a aussi ce genre de débat qui doivent être installés dans la population, et c'est pas simple d'illustrer ce genre de débat pour plein de raisons. D'abord parce que c'est pas simple d'illustrer le monde dans 20 ans ou ce qu'il pourrait être dans les mauvais cas de figure dans 20 ans, c'est un truc qui est compliqué. Et on est clairement dans une discipline un peu nouvelle qu'on va devoir apprendre, que j'appelle parfois la hiérarchie des renoncements, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer, qu'est-ce qui va pas être très coûteux finalement, et qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en face. Est-ce qu'on a envie d'avoir en face un monde qui nous paraît plus assuré, par exemple? Est-ce qu'on gagne de l'espoir? Est-ce qu'on gagne de la sérénité? Est-ce qu'on gagne de la sécurité? Est-ce qu'on gagne des trucs comme ça, qui n'ont pas de valeur économique stricto sensu, mais qui ont quand même une valeur importante pour les individus, puisqu'on est sur la question du confort psychologique et la question des valeurs, en fait. Il n'y a pas de réponse miracle. Donc là, c'est clair qu'on va tâtonner un peu, très probablement, mais il me semble qu'il est important d'emmener le débat sur ces terrains-là, encore une fois, qui est la juste répartition de l'effort, et le fait, par ailleurs, de tenir un discours adulte à la population, et donc de ne pas lui raconter trop de carabistouilles sur le cadre physique dans lequel on va être obligé de réfléchir. Sur la question de l'aménagement du territoire, là je vous renvoie aux travaux du Shift récent qui s'appelle Stratégie de résilience des territoires. On a fait tout un ensemble de travaux là-dessus, et c'est clair que là aussi il faut déconcentrer pour partie l'initiative face au problème, mais il faut la déconcentrer de manière intelligente. C'est-à-dire que la bonne manière de déconcentrer l'initiative, c'est de mettre les gens en capacité de comprendre. Hein, pour moi, c'est ça le premier étage de la fusée, de façon... Voilà. Et donc ça passe, comme pour les députés qui n'ont pas été très assidus à la séance de formation qui vient d'avoir lieu, si j'ai bien compris, ça passe aussi pour les élus locaux, par le fait d'arriver à comprendre ce qui se passe, où sont leurs marges de manœuvre et où est-ce qu'ils doivent être fatalistes quelque part, même si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, parce qu'ils vont se retrouver face à plus fort qu'eux et il va falloir qu'ils composent avec une évolution qui va de toute façon prendre place. La première recommandation de stratégie de résilience des territoires, c'était de consacrer 1% des budgets, sachant qu'il y a 10% du budget là, pour plein de communes qui vont être bouffées par la hausse de l'énergie, hein. 1% du budget à de l'acquisition de connaissances, c'est-à-dire soit de la formation des élus, des agents, etc., soit des études ad hoc qui permettent de comprendre quelle est la situation de départ avec les forces et les faiblesses du territoire sur lequel on est et comment est-ce qu'on confronte le territoire à un objectif national qui est d'arriver à se passer progressivement des hydrocarbures sous contrainte de métaux, d'espace, de biomasse et tout un tas d'autres trucs. Et de biodiversité, enfin bon, bref, tout un tas d'autres trucs. Voilà, et sur la question du salaire universel, j'ai pas de réponse à vous apporter. En France, on est plus proche, avec les systèmes de solidarité que nous avons, que d'autres pays de cette notion, puisqu'on a déjà un certain nombre de revenus garantis dans un certain nombre de cas de figure. On a un système de chômage, qui est une très bonne chose, hein, qui permet de faire face à un certain nombre de situations où les gens sont sans ressources. Je n'ai pas les compétences, j'ai pas réfléchi à la question pour savoir si il faut aller plus loin que ça et sous quelle forme. Voilà, donc là, joker, si j'ai envie de dire, c'est un peu hors de mon champ de compétences et j'ai pas tellement de questions. Alors après, il y a une question qui m'a été posée, enfin toute une série de questions. Alors, je vais quand même faire une remarque. Vous avez commencé par me dire, vous parlez beaucoup de la sobriété, on vous voit pas assez là-dessus, puis ensuite vous m'avez traité de monomaniaque du nucléaire. Enfin, si je parle beaucoup de la sobriété, je peux pas être un monomaniaque du nucléaire. Je parle nécessairement d'autre chose que du nucléaire. Bon. Alors, si on m'entend que sur le nucléaire, là, il faut vous adresser aux journalistes. Il faut quand même savoir... Oui, je vais vous sortir une anecdote. Lors du lancement du Monde sans fin, excellente BD que vous avez sûrement lu, j'ai été invité à la matinale de France Inter. Ils avaient commencé par m'inviter pour parler de nucléaire. Je leur ai dit, je n'irai pas. J'en ai marre qu'on vienne me chercher juste pour ce sujet, je n'irai pas. Bon, et alors ils m'ont dit, est-ce que vous voulez venir parler de votre BD ? J'ai dit, ça je veux bien. Donc, en fait, la raison pour laquelle je suis mis en avant, et là en ce moment, là, comme je vous parle, la semaine qui vient de se passer, j'ai dû refuser, je ne sais pas combien, entre 5 et 10 invitations à aller causer de nucléaire dans la presse. Donc, c'est pas moi. J'assume mes opinions, mais le fait que vous ayez une presse qui adore et vous êtes bien payé pour le savoir, les trucs qui sont blancs et noirs, une fois qu'on vous a collé dans une case, c'est difficile d'en sortir. Donc, par ailleurs, je n'élude pas donc quand je suis sur un plateau de télé et qu'il y a 10 questions, dont une question sur le nucléaire, bah, je réponds à la question sur le nucléaire. Je veux dire, je suis pas là pour dire celle-là, je répondrai pas, j'ai pas envie, allez donc voir quelqu'un d'autre. J'assume. Mais cela étant, si derrière le résumé c'est qu'on ne retient que ça, je fais ce que je peux pour lutter contre, je ne maîtrise pas complètement le processus. Donc je m'exprime également par d'autres canaux que la presse, en particulier je m'exprime tous les jours sur LinkedIn et je ne parle pas tous les jours de nucléaire, si vous allez regarder, hein, loin s'en faut. Je m'exprime également sur mon site personnel et je ne parle pas que de nucléaire, loin s'en faut. Et je m'exprime dans des vidéos où je ne parle pas que de nucléaire, loin s'en faut. Je suis capable de faire un exposé d'une heure et demie sur la situation énergétique et climatique en prononçant le mot nucléaire deux fois si je le prononce. Donc voilà, donc la seule chose que je peux se dire, c'est autant que faire se peut, j'essaye de renvoyer les gens à mes écrits et à mes oraux primaires. La presse, de temps en temps, vous la maîtrisez pas complètement. Encore une fois, vous êtes bien placé pour le savoir. Bon, après, je sais pas si je voulais que je réponde dans le détail à tous les autres trucs que vous avez... Bon, j'ai compris que vous aimiez pas beaucoup le nucléaire. Mais bon, je sais pas si c'est la peine de répondre en détail à tout.
Ouais, le sens de ma question est, moi, quand je regarde bout à bout les éléments rationnels et dont vous faites y compris état dans un certain nombre d'écrits, je n'aboutis pas à la même conclusion. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de mettre bout à bout les choses. Et c'est pour ça que je vous posais la question sur les 15 années, le réchauffement climatique, et sur l'incertitude, quelque part, du développement de la technologie que vous mettez en exergue dans les options et que vous défendez, de fait. Et donc, c'est ça qui m'interroge réellement sur pourquoi cette croyance, quelque part, totale dans le fait que le nucléaire sauverait le climat, ce qui, moi, me paraît antinomique. Mais c'est un peu ça, voilà. C'était le sens de ma question. Ça m'intéresse quand même votre réponse.
Alors, si vous avez bien lu ce que j'ai écrit et dit, je n'ai jamais dit que le nucléaire sauverait le climat. Jamais. J'ai toujours dit que le nucléaire n'éviterait pas la décroissance. Toujours. J'ai toujours dit qu'il ne serait pas à l'échelle pour remplacer les combustibles fossiles. Toujours. La seule chose que je dis, c'est qu'il fait partie des amortisseurs de la décroissance. Et dans cette catégorie-là, je considère qu'il a un certain nombre d'avantages physiques qui font que c'est une bonne idée d'en faire autant qu'on peut, sachant qu'autant qu'on peut, ça ne sera jamais des montagnes de toute façon, parce qu'il y a des limites temporelles et de compétences sur son déploiement qui font que de toute façon, et j'ai également écrit dans le premier livre que j'ai écrit que l'énergie infinie serait une absolue catastrophe. Je l'ai écrit dès mon premier bouquin. J'explique si on était tous transformés en Superman, vous voyez, vous avez une tête qui ne me plaît pas, je fais exploser cette salle. Enfin, donc ça serait une absolue catastrophe qu'on ait tous de l'énergie illimitée, qu'elle soit propre ou sale, n'est pas le sujet. Donc, mais par contre, j'ai toujours dit qu'il fallait, dans un monde imparfait, et qui va malheureusement l'être de plus en plus, hiérarchiser nos possibilités d'action et choisir en premier là où la balance avantage-inconvénient est la plus intéressante. Or, je fais partie des gens qui ne croient pas que pour des raisons physiques, on ira jusqu'au bout des scénarios de déploiement des énergies renouvelables, diffuses, électriques, intermittentes. Donc les trois adjectifs sont importants. Je pense qu'on n'ira pas au bout parce que c'est trop complexe comme système. Il y a quatre conditions physiques sur lesquelles l'AIE et RTE ont dit qu'il fallait arriver à franchir une barrière que pour le moment on n'est pas arrivé à franchir. Il y a un petit document qui a été diffusé il y a un an et demi, je crois, à peu près, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui listait les quatre conditions. Il y a un sujet de stockage, un sujet d'ajustement en fréquence, il y a un sujet de disponibilité, il y a un sujet de stockage intersaisonnier, qui est un truc très important. Enfin, bref, il y a un certain nombre de conditions, et je pense que on n'y arrivera pas. Donc, or, le système nucléaire, on y est déjà arrivé une fois en France. Donc, on a fait la preuve qu'au moins on y est arrivé une fois. Donc, c'est exactement l'image qu'on utilise dans le monde sans fin. Ça fait partie des parachutes de secours. Mais vous savez, un parachute de secours, c'est un truc dont vous n'avez pas envie de vous servir. Hein. Déjà, vous avez dû sauter de l'avion parce qu'il était en flamme, et en plus, le parachute dorsal ne marche pas. Donc, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui, à tout prendre, présente des avantages supérieurs à ses inconvénients. Voilà, c'est ça mon opinion, en ayant bien regardé. Mon opinion sur le nucléaire date d'une époque où je n'avais pas touché un euro d'un acteur de la filière nucléaire. Ça date du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la question climatique. En fait, chronologiquement, j'ai regardé d'abord le climat, ensuite j'ai regardé le nucléaire et ensuite j'ai regardé le pétrole. J'ai regardé chronologiquement dans ces trois ordres-là. À l'époque, j'avais zéro lien économique avec ce monde-là. Juste, j'ai été posé des tas de questions, et tant que j'avais pas compris, j'ai continué à aller poser des questions. Bon, et c'est de cette époque-là que date ma conviction que c'est une énergie qui est à mettre du côté des solutions et pas du côté des problèmes. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est à mettre du côté des solutions que c'est miracle. J'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais.
Merci bien. Du coup, on a encore deux questions que je vous propose de faire assez
courtes. Et ça n'évitera pas des efforts massifs de sobriété. J'insiste là-dessus. Hein. Ça ne les évitera pas. Les allège.
Que je vous propose donc de... Merci beaucoup, Monsieur Jancovici. Je vous propose de faire les questions courtes et synthétiques, Madame Brûlebois et Monsieur Mazard.
Merci. Plaisir de vous écouter. Vous êtes une figure incontournable de la sobriété, de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous parlez vrai, vous parlez simple, vous parlez juste et vous plaisez beaucoup aux jeunes générations. Votre chaîne YouTube compte 220 000 abonnés, votre Facebook 185 000, LinkedIn 600 000 abonnés. Pardon ? Voilà. Donc, moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est ce numérique qui est sur la pente ascendante, qui augmente de 9% sur un an. Et bref, ce numérique risque de devenir insoutenable pour la planète puisque c'est un gouffre énergétique, un grand consommateur de matières premières. Donc, le secteur du numérique génère autant de gaz à effet de serre, plus de gaz à effet de serre que l'aviation, que vous avez souvent cité. Et d'ici 2050, on nous dit qu'à ce rythme, elles représenteront 35% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ma question est la suivante. Ce numérique qui a quelque peu quand même bénéficié à l'environnement ne suffit pas à compenser sa propre empreinte numérique. On a pensé, on a compté sur la dématérialisation pour économiser des arbres, mais au bout du compte, quand on fait l'addition, le compte n'y est pas. Alors, que pensez-vous, Monsieur Jean Covici, de ce développement exponentiel, de ces tweets et retweets futiles, inutiles? Pensez-vous qu'il ne faudrait pas, aujourd'hui, réfléchir à responsabiliser, voire à réguler l'usage du numérique?
Merci. Monsieur Mazard, synthétique.
Oui, merci, Monsieur le Président. Désolé, Monsieur Jancovici, je vais vous obliger encore à parler un petit peu de nucléaire. Quand on rencontre nos concitoyens, alors qu'ils ne sont pas farouchement hostiles au nucléaire, ils expriment donc deux craintes concernant le nucléaire. La première crainte, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quid des déchets. Et vous avez dit que c'était peut-être un peu disproportionné, la crainte qu'on pouvait avoir sur le traitement de nos déchets par rapport à la technologie qui semble assez efficace en la matière, et en tout cas le peu de risques objectifs que représentent ces déchets. Et après, la deuxième crainte qui est exprimée, c'est la sécurisation des sites eux-mêmes, des sites nucléaires, par rapport aux catastrophes nucléaires ou par rapport à des attaques. Et on voit ce qui se passe en Ukraine actuellement. Quel est votre avis là pour pourquoi pas aussi rassurer nos concitoyens sur ce sujet, ou est-ce que c'est une crainte qu'il faut prendre véritablement au sérieux et qui peut être un écueil au développement du nucléaire? Et puis un mot sur l'énergie produite par nos grands ouvrages hydroélectriques. Vous savez qu'aujourd'hui, certains nombres de ces ouvrages sont exploités par des exploitants historiques, mais à qui on demande donc de remettre donc à la concurrence, donc, enfin, on demande à l'État en tout cas de remettre à la concurrence donc l'exploitation de ces grands barrages hydroélectriques. Alors là, on est sur un problème de souveraineté qui n'est pas lié à la technologie ou aux procédures, mais qui est lié donc à celui qui de même pourrait piloter ces grands ouvrages. Quel est votre sentiment sur le sujet, et est-ce qu'aujourd'hui l'orientation qui semble être prise concernant notamment l'opérateur EDF avec la nationalisation semble aller dans la bonne direction?
Alors, Madame Babot, et puis ensuite, on aura fini les questions.
Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais tout d'abord revenir sur les dérivés du plastique, les dérivés du pétrole dont vous évoquiez, si vous pouvez éventuellement développer. Vous avez parlé de la mobilité des bâtiments, mais il restait effectivement les plastiques du quotidien, et notamment dans la partie alimentaire. La deuxième question, c'est sur le bilan de carbone. Sur le bilan carbone, vous en êtes l'auteur. On parle souvent d'émissions carbone, mais bien moins de bilan. Et pour nos prises de décision, je pense qu'il serait intéressant, et j'aimerais savoir si cela existe, alors dans de nombreux domaines, mais aussi sur l'énergie, un bilan carbone sur l'ensemble des solutions que nous avons évoquées, quelque chose de précis et de clair, qui serait, ma collègue le parlait tout à l'heure, de rationnel. Là, au moins, ce serait intangible, ce serait factuel. Merci.
Voilà, alors en vous laissant la parole, je vous pose une dernière question un peu bonus. Voilà, privilège du président. Quid des puits de carbone autres que naturels? Voilà.
Vous voulez parler de l'aspirateur à CO2 islandais là? Alors, le numérique. Vous avez raison, j'ai mauvaise conscience. Bah oui. Alors le numérique, je vais d'abord le relier au thème de cette commission. C'est un domaine dans lequel nous n'avons aucune souveraineté, aucune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour payer mes impôts, je dépends des GAFA. C'est-à-dire la fonction la plus régalienne de l'État, qui est de lever l'impôt, a été confiée aux GAFA. J'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin d'un système Internet qui n'est pas opéré, j'ai besoin d'un système mondial de télécommunication. Enfin, tout ça, il n'y a plus rien dans cette affaire qui relève de la souveraineté française. Hein. Bon. Ce qu'on vient de faire sur la 5G est, de mon point de vue, un abandon supplémentaire de souveraineté, puisqu'on va obliger les Français, enfin on va inciter, pour être plus exact, les opérateurs français à s'équiper avec des tas de composants de réseau qui ne sont pas fabriqués en France. On va inciter les Français à changer de smartphone pour des appareils qui ne sont pas fabriqués en France. Donc c'est quelque chose qui est tout ça pour regarder Netflix dans le métro. Enfin, je ne suis pas complètement convaincu. Et pour avoir Tinder qui marche mieux. Du reste, au moins Free est honnête dans ses campagnes de pub. Donc le chirurgien, l'opération du genou de madame, je ne sais pas quoi, en Creuse, là, en fait, non, c'est pas à ça que ça va servir. Donc on est clairement aujourd'hui dans ce que j'appelle l'ébriété numérique. Alors avant de savoir si la première chose à faire est de fermer le compte YouTube de Jean Covici, ce qui est une option, puisque comme ça on se dit bah oui, ça supprimera de la pollution numérique. Ça, bon. Pour le moment, je fais ce que je peux en disant regardez en très basse définition, mais bon, c'est clair que j'y participe aussi, hein, donc ça est question pour moi aussi. Il y a quand même un certain. Alors, si on repart du début, hein, l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui dans le monde, c'est à moitié fabrication des équipements, à moitié opération des équipements. Dans les équipements, vous avez tous les écrans connectés là qui sont autour de cette table, enfin autour de cette salle, pardon. Vous avez les ordinateurs, vous avez les smartphones, vous avez les composants de réseau. Voilà, ça c'est et les serveurs. Et l'opération de ces équipements, donc l'électricité, c'est l'autre moitié. Ce qui tire aujourd'hui extrêmement fortement, donc vous avez raison de me chatouiller sur YouTube, ce qui tire aujourd'hui extrêmement fortement la croissance du trafic du système digital mondial, c'est la vidéo en ligne. Hein. Les gens qui font du streaming, la Netflix en tête, YouTube est un gros pourvoyeur également de trafic data, le porno est également un gros pourvoyeur de trafic data, et après vous avez toutes les vidéos du petit dernier qui fait are, que les gens s'envoient. Et qui est quelque chose de nulle importance pour, en général pour les récipiendaires, mais très important pour les gens qui expédient la vidéo. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on limite l'inflation de tout ça ? Alors il y a quelques suggestions qu'on avait faites à l'époque au Chiffre Projet. On avait proposé à l'ARCEP que les accords, enfin que les licences octroyées aux opérateurs soient faites sous condition de maîtrise de l'empreinte carbone. Voilà, c'est une option. À l'époque, ils nous avaient qu'à moitié rionné. Enfin, ils avaient noté l'idée. Voilà. Il faudra probablement, c'est toujours pareil, à partir du moment où on veut limiter un usage, il y a que deux options, hein, c'est les quantités ou les prix. Et au Chiffre Project, on est un peu plus communiste, donc on préfère les quantités que les prix. On pense que c'est plus égalitaire de limiter par les quantités que de limiter par les prix. Il va clairement falloir se poser la question. Et par ailleurs, aujourd'hui, la débauche d'équipements qu'on est en train d'utiliser pour des usages totalement récréatifs, le métaverse, etc., dont je ne suis pas complètement convaincu qu'ils vont aider à faire pleuvoir ou à se sortir un peu mieux de la situation qu'on est en train de décrire ici, c'est autant de composants qu'on ne pourra plus mettre dans des choses qui, aujourd'hui, sont indispensables au fonctionnement quotidien de notre société, avoir des banques. Aujourd'hui, les banques, c'est quoi ? C'est des électrons et des ordinateurs. Hein. C'est ça, une banque, aujourd'hui. Hein. C'est, d'accord ? Sans électronique, ça n'existe plus, une banque. Hein. Si demain matin, on devait revenir aux billets de banque et aux comptables sur feuille de papier, le système explose. Bon. Donc, ces usages-là, qui sont, même si on dit beaucoup de mal des banques par ailleurs, il y a des usages comme ça qui, aujourd'hui, sont devenus essentiels à très court terme. Et on est en train de, entre guillemets, gaspiller des ressources pour des trucs assez futiles, au détriment de la possibilité de garder des trucs qu'on va devoir garder un peu plus longtemps précisément. Voilà. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Il me semble que ça justifierait également des investigations un peu plus approfondies de l'enceinte dans laquelle je me trouve, de se pencher sur qu'est-ce qu'on fait en termes de stratégie numérique dans ce pays, à part céder à la fascination devant le gadget. Et je suis désolé de le dire à votre groupe, notre président en tête. Hein. Alors... Ensuite, en ce qui concerne, on a quand même tous vu au Consumer Show là, de Las Vegas avec des lunettes virtuelles, etc. Enfin bon, c'est pas un secret d'État. Hein. Après, il y avait un sujet sur la sécurisation des sites, la question des accidents sur les sites. Alors, un accident est toujours possible. C'est clair qu'il faut vivre avec cette idée. Hein. Moi, en sortant d'ici, je peux me faire renverser par un camion. Donc, un accident est toujours possible. La question, c'est est-ce que, compte tenu des avantages que nous offrent les dispositifs non accidentés, on est prêt à courir le risque de l'accident ? Et le risque de l'accident aujourd'hui le plus important, c'est le risque de panique, en fait. C'est pas tellement le risque, c'est pas tellement le dommage physique lié à l'accident. C'est le fait qu'aujourd'hui, le nucléaire, encore une fois, j'ai jamais percé complètement les raisons de tout ça, engendre des réactions qui sont disproportionnées par rapport à la cigarette, par rapport à la circulation routière ou par rapport à un aliment dont je ne redonnerai pas le nom ici parce que ça a déjà suffisamment fait le buzz comme ça. Quand on regarde les risques qu'on court, en fait, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident sur un réacteur à eau pressurisée ? Le plus probable, c'est qu'il se passe la même chose que ce qui s'est passé à Three Mile Island, c'est-à-dire que vous perdez le réacteur à l'intérieur de l'enceinte de confinement, point. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un conflit Alors à ce moment, le vrai problème, c'est est-ce que l'accident, enfin la vraie question, c'est est-ce que l'accident va rajouter de façon massive des dommages par rapport aux dommages du conflit ? C'est ça la question. Donc la question, c'est s'il y a un accident à Zaporijjia, est-ce que ça change significativement le bilan de la guerre en Ukraine ? Et la réponse est malheureusement non. Voilà. Donc quand il y a un dommage à une installation parce qu'il y a eu guerre, le vrai problème, c'est la guerre. C'est quand même ça le vrai problème. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Bon. Après, vous avez des tas de manières de faire plein de morts avec des dommages aux installations de production électrique. Et du reste, dans la convention, j'adore les guerres avec convention, moi. Je veux bien que tu me tues, mais d'une certaine manière seulement. Normalement, on ne porte pas atteinte aux centrales nucléaires quand on se fait la guerre, mais on ne porte pas non plus atteinte aux barrages, figurez-vous. Et or, si vous voulez faire beaucoup de dégâts très rapidement, vaut beaucoup mieux dézinguer les barrages que dézinguer les centrales nucléaires. Si on faisait sauter le barrage de Vouglans en France, ça mettrait 6 mètres d'eau, place Bellecour, à Lyon. Je peux vous assurer que ça ferait plus de morts que... Bon. Donc c'est quoi la bonne réponse ? En fait, elle tient dans un mot que je n'ai pas prononcé jusqu'à maintenant, qui est pédagogie. L'époque va probablement demander que votre métier comporte plus qu'avant le fait de faire la pédagogie des problèmes. Alors je sais bien que pour un élu, normalement, on fait la pédagogie des solutions. Mais non, mais de temps en temps, je pense que vous n'allez pas couper au fait de faire aussi la pédagogie des problèmes. La seule manière d'y arriver, c'est de vous en imprégner vous-même, hein, c'est-à-dire d'être vous-même capable de maîtriser à peu près les sujets sur le plan technique. Hein. Alors ça en fait un de plus. Je sais très bien que ça vient en plus de la sécurité sociale, de la production agricole, de la façon dont on enseigne le français au collège et de ce qui se passe dans les quartiers où il y a trop d'immigrés. Donc ça vient en plus de tout ça. Mais il va falloir le faire quand même. Quand je dis trop, c'est pas un jugement de valeur, c'est pour représenter le débat public. Pardon ? Vous pouvez le laisser, c'est une figure de style. Après, il y avait un sujet sur une question sur l'hydroélectricité. Et du coup, j'ai pas noté la question, j'ai juste noté que c'était l'hydro. Oui. Alors, l'ouverture à la concurrence du site. Oui, alors je me suis exprimé de manière générale sur l'ouverture à la concurrence des systèmes électriques en disant que ça avait été une connerie. Et je le pense toujours, qu'on a essentiellement perdu notre temps à faire quelque chose qui n'a apporté aucun élément positif. Rien. Ça a servi à rien. Ça a servi à enrichir des distributeurs, ça a servi à divertir de la rente par rapport aux propriétaires des dispositifs de production, ça a servi à créer des effets de volatilité dans les prix de marché dont en ce moment on est en train de voir les effets à plein. Ça n'a servi à rien d'utile. Voilà. Donc est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans cette direction ? Ben, vous avez la réponse. La réponse est non. Qu'est-ce que ça demande de rétro-pédaler sur ce sujet ? Bah, ça demande que la France prenne son bâton de pèlerin et aille commencer à militer et donc faire la pédagogie du problème aussi auprès de nos amis européens, puisque ça dépend d'une décision, en disant que peut-être que l'époque voudrait qu'on arrête ce genre de système qui n'a strictement aucun intérêt et qu'on revienne à quelque chose de plus intégré qui permet de faire de la planification sur le long terme, parce que le maître mot en matière de système énergétique, c'est de planifier. Et quand vous avez un marché ouvert, la planification est impossible. Donc vous pouvez faire de la délégation. On aurait pu faire de l'ouverture à l'amont. On aurait pu dire, bon, on fait un duopole dans ce pays, quand on en a marre d'EDF, on prend Engie, quand on en a marre d'Engie, on prend EDF. C'est exactement ce qu'on a fait dans l'eau. Vous avez plein de... Dans les infrastructures très capitalistiques, c'est ce qui finit par se passer. C'est-à-dire, vous avez un oligopole régulé. On peut discuter de savoir si un oligopole régulé, c'est mieux qu'un monopole. D'accord ? Mais c'est le seul truc qui soit compatible avec le fait que vous avez besoin d'opérateurs capables d'assumer des investissements lourds. Voilà. La concurrence à Laval était un truc qui n'avait aucun intérêt. Aucun. Alors, les usages du plastique. On peut faire des plastiques avec de la chimie, avec de la biomasse. Puisque dans les hydrocarbures, vous avez du carbone et de l'hydrogène. Donc dans la biomasse, vous pouvez récupérer du carbone et de l'hydrogène. Et après, pareil, faire des plastiques. Du reste, aujourd'hui, vous avez des plastiques qui sont faits à partir d'éthanol de canne à sucre, à partir d'amidon de maïs, etc. Est-ce qu'on en fera autant que le plastique qu'on fait avec le vrai pétrole ? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera aussi facile ? Ça, non. Ça sera nécessairement plus compliqué. Et après, la question, c'est à partir du moment où on tape dans la biomasse, en fait, il y a toujours une question systémique à laquelle il faut être, enfin, de système à laquelle il faut être capable de répondre. La biomasse, c'est-à-dire l'espace, vous pouvez en faire quatre choses différentes. Vous pouvez vous en servir pour manger. Vous pouvez vous en servir pour avoir des matériaux, des fibres, du bois, du chanvre, du lin, etc., du coton. Vous pouvez vous en servir pour avoir de l'énergie, du bois bûche cette fois-ci, pas du bois d'œuvre, des agrocarburants, etc. Et vous pouvez vous en servir pour fiche la paix à ce qui s'y trouve, ça s'appelle préserver la biodiversité. Et de temps en temps, vous pouvez un peu combiner les usages. Par exemple, vous pouvez faire une agriculture qui soit plus ou moins nocive pour la biodiversité. Donc, vous pouvez avoir des combinaisons. Vous pouvez faire de l'agriculture avec de l'agroforesterie, avoir un peu de bois énergie ou avoir un peu de bois matériaux. Donc, vous pouvez un peu combiner. La question de combien de biomasse on est capable d'utiliser pour faire du plastique, elle est donc indissociable de la question de combien de biomasse j'ai envie d'utiliser pour avoir de l'énergie, biogaz, agrocarburant, etc. Combien de biomasse je veux pour faire du bois d'œuvre. Etc. Et aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand vous regardez les plans sectoriels qui sont faits par les secteurs industriels les uns derrière les autres, ça boucle pas. C'est-à-dire, si vous ajoutez simplement l'appel à la biomasse du secteur aérien et du secteur de la construction pour avoir du bois d'œuvre, déjà ça, en France, vous excédez les capacités de production à surface constante. Rien que ça. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est, en vous disant ça, je vous explique pourquoi je ne suis pas capable de répondre à la question. Parce que la seule bonne réponse, c'est ça dépend de ce que vous avez comme ambition sur les usages concurrents de la biomasse. Il n'y a pas de bouclage aujourd'hui qui est fait entre secteurs. Alors, dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, nous, on a fait ce bouclage et on l'a tellement fait qu'on met très peu de biomasse dans le PTEF à cause de ça. Il faut bien voir aussi qu'à l'avenir, le changement climatique va peser sur les rendements agricoles. La décrue de la disponibilité fossile va peser sur les rendements agricoles puisque, en fait, quand on mange aujourd'hui, on mange du pétrole et du gaz. On mange du pétrole dans la mécanisation des engins de transport et dans les transports amont et aval, j'en ai parlé tout à l'heure. Et on mange du gaz dans la fabrication des engrais azotés, qui sont faits avec du gaz. Bon. Donc, dans la décrue, on mange également des engrais qui sont importés de très loin, des phosphates et de la potasse, c'est de l'exploitation minière. Hein. Donc, avec ces, et on mange enfin du pétrole pour les phytosanitaires. Bon. Avec la décrue de tout ça, vous savez que la mécanisation, les phytosanitaires et les engrais ont multiplié le rendement céréalier en France par 5 en 30 ans après-guerre. C'est évident que dans un monde avec un climat plus hostile et avec moins de combustibles fossiles disponibles, on va avoir une partie du chemin inverse qui va se faire. Question, est-ce qu'on accepte par exemple de manger moins de viande en n'ayant pas plus de surface agricole? Est-ce qu'on veut plus de surface agricole pour manger toujours autant de viande? Du coup, vous aurez moins de surface agricole pour faire du bois d'œuvre, du bois énergie et pour faire des plastiques. Enfin, vous voyez, donc, c'est très difficile de répondre à cette question-là de façon dissociée de la façon dont on répond à plein d'autres questions, y compris sous contrainte, enfin, ou en incluant plus exactement la contrainte d'approvisionnement énergétique fossile et la contrainte de dérive climatique, qui sont plutôt des choses qui vont jouer dans le mauvais sens globalement. Donc la réponse, pour faire court, c'est qu'il va falloir en utiliser moins. Et manger moins de viande. C'est pas où, c'est et. Voilà. Et après, il va falloir bien la choisir. Donc, typiquement, dans le moins de viande qu'on mange, c'est évident qu'il faut d'abord commencer par préserver ce qui vient des pâturages, parce que c'est des endroits où vous valorisez plus facilement de la biomasse avec des animaux et moins avec ce qui vient des grandes cultures qui vont servir derrière à nourrir des animaux, etc. Enfin bon, il y a tout un débat à avoir là-dedans également, qui est un débat pas simple. Et il faut bien voir aussi que il y a un vrai sujet dans cette affaire. C'est un aparté, mais c'est très difficile de demander à un secteur qui n'est pas globalement pas très riche, à l'exception de quelques acteurs, mais qui est l'agriculture, de faire des innovations massives sans que les Français acceptent de payer leur nourriture un peu plus cher. Hein. Donc, on a aussi un sujet à ce niveau-là. Alors, il y avait le bilan carbone des sources énergétiques. Alors oui, il y a des sources énergétiques sur lesquelles c'est très simple de faire une empreinte carbone. Par exemple, tous les modes électriques, c'est raisonnablement simple. Avec parfois des variations. Par exemple, un panneau solaire, selon que vous le mettez dans un désert chilien ou selon que vous le mettez dans la brume norvégienne, il ne va pas vous sortir la même quantité le même panneau solaire qui aura émis la même quantité de CO2 pour sa fabrication, parce qu'il faut de la métallurgie, parce qu'il faut fondre le silicium, parce qu'etc. Il ne vous fera pas la même quantité de kilowattheure à l'arrivée sur sa durée de vie, et donc le contenu carbone en analyse de cycle de vie du kilowattheure produit aura varié par la force des choses. Mais on a quand même des ordres de grandeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile à établir. Là où ça commence à devenir plus difficile, c'est pour certaines énergies fossiles d'estimer les émissions dites fugitives, c'est-à-dire les émissions qui sont liées à des fuites à l'amont, et particulièrement pour le gaz, puisque le gaz naturel, c'est du méthane, et que le méthane est un gaz à effet de serre. Donc les fuites de gaz naturel, de mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, à 8% de fuite, le gaz naturel est aussi nocif que le charbon, pour le... Voilà, 8% on les a pas en général, hein, mais c'est quelques pourcents on peut les avoir. Bon. Donc il y a voilà. Après pour des là où ça devient plus compliqué, c'est pas tellement pour les sources énergétiques, c'est pour tout ce qui en est issu. C'est-à-dire si je veux faire l'empreinte carbone de votre foulard ou l'empreinte carbone de votre veste ou l'empreinte carbone de ce micro, là ça devient plus compliqué parce qu'à chaque fois il faut faire une investigation approfondie. Sur les sources énergétiques, globalement les ordres de grandeur sont assez facilement disponibles. Là où vous allez avoir une incertitude importante, c'est sur les sources issues de la biomasse, parce que ça renvoie à la discussion qu'on a déjà eue plusieurs fois, c'est est-ce que c'est associé à de la déforestation ou pas. Parce que ça change le résultat d'un ordre de grandeur, hein, en gros. Si ce n'est pas associé à de la déforestation, c'est mieux que le fossile, mais si c'est associé à de la déforestation, c'est pire que les fossiles. Donc c'est... Là, il y a quelque chose qui est vraiment... Ça fait vraiment changer le résultat de nature, et c'est lié à quelque chose sur lequel vous pouvez faire difficilement autrement que de poser des hypothèses. Ah! Alors, dans les plus émissives, vous allez trouver en CO2, ça dépend sur quel paramètre par ailleurs, parce que vous pouvez regarder le CO2, vous pouvez regarder l'espace au sol, vous pouvez regarder les particules fines, voilà. Alors, si on parle de CO2, ce qui est la plus nocive de très loin, c'est le charbon. Ensuite arrive le pétrole, ensuite arrive le gaz. Mais le bois avec déforestation, c'est encore pire que le charbon. D'accord. Donc, par exemple, les projets qui visent à remplacer pour un certain nombre de pays où le bois de feu est obtenu par déforestation, les foyers par des petits réchauds à gaz, c'est pas idiot. Hein. Sans même parler de foyers solaires, hein. Du but à gaz de camping. Hein. Voilà. Donc, vous avez un. Donc, c'est ça la hiérarchie. Dans les modes dits non carbonés, c'est-à-dire où le fonctionnement même n'émet pas de CO2, la hiérarchie, c'est que vous allez trouver au plus haut, vous allez trouver le solaire. En dessous, vous allez trouver à peu près à parité l'hydroélectricité, l'éolien et le nucléaire, avec des petites variations en fonction des spécificités locales. Et voilà. Mais en gros, c'est comme ça que ça se... Avec un facteur 3-4, on va dire, entre le solaire et le reste. Le reste, vous êtes entre 5 et 10 grammes de CO2 par kilowattheure électrique. Le solaire, vous êtes entre 20 et 50 en fonction des conditions d'insolation, etc. Ça, c'est sans tenir compte du stockage. Parce que quand vous stockez, vous perdez 20 à 40%, enfin avec des modes classiques, donc soit step. Step, vous perdez 25%, batterie, vous perdez 20%, et il faut faire la batterie. Ce qui émet également du CO2. Comme vous le savez probablement, dans une voiture électrique, la fabrication de la batterie, c'est la moitié des émissions de fabrication de la voiture. Donc si vous rajoutez les émissions du stockage, pour le solaire, vous pouvez dépasser les 100 grammes. En mode purement électrique, le gaz est à 400 grammes de CO2 par kilowattheure électrique, le pétrole à 800 et le charbon à 1000 en ordre de grandeur. Les puits de carbone technologiques, bon, en très court, vous oubliez. Il y a un truc qui technologiquement peut fonctionner, c'est de ne pas émettre, c'est-à-dire la capture et séquestration. Mais récupérer le CO2 une fois qu'il est dans l'air avec des modes technologiques, ça c'est un truc de Shadok. Le CO2 est une molécule qui est chimiquement inerte. C'est chimiquement inerte, hein, le CO2. Une fois que vous avez une molécule chimiquement inerte diluée à 0,04% dans un milieu aussi peu dense que l'air, oui, eh bien, pour aller récupérer le CO2 là-dedans, vous avez une dépense énergétique qui est tellement considérable que c'est un truc que vous ne pourrez jamais déployer à l'échelle. Alors j'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur avec le truc islandais là, qui a fait un peu le buzz, l'aspirateur à CO2 islandais. Et mon calcul, c'est que si on voulait, avec ce genre de dispositif qui s'appelle dans le jargon anglais Direct Air Capture, donc DAC, la totalité de nos émissions annuelles, hein, reprendre dans l'atmosphère après avoir émis la totalité de nos émissions annuelles, il faudrait y consacrer la totalité de l'électricité annuelle et la totalité du pétrole consommé dans le monde tous les ans. Donc en gros, on aurait un truc de Shadok parfait où l'énergie ne servirait qu'à une chose, c'est à récupérer le CO2 qu'on met dans l'air grâce à cause de l'énergie. Voilà. Bon, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit quelque chose derrière lequel il faille se précipiter. Donc aujourd'hui, comme l'argent coule à flot partout, parce qu'il y a eu de la création monétaire dans tous les sens, vous trouvez quelques fonds d'investissement qui investissent dans ce genre de trucs, mais c'est, voilà, ça les occupe. Mais en gros, ça ne servira à peu près à rien pour changer le destin du monde.
Merci. Donc... Pour cette conclusion par laquelle vous nous invitez à penser que pour l'instant le génie de l'homme n'a pas encore égalé la photosynthèse, en gros.
Le génie de l'homme va avoir beaucoup de mal à égaler un certain nombre de merveilles de la nature, vous savez.
On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Jancovici, pour les 2h30 que vous avez consacrées à répondre aux questions de notre commission d'enquête. Ça permet de brosser large et de progressivement entrer dans les sujets qui seront peut-être davantage les processus décisionnels que les choix technologiques, parce que ça contribue aussi à la façon dont on prendra dans le futur les décisions publiques. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, monsieur le rapporteur.